Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode de l'année 2024, que je vous souhaite merveilleuse et lumineuse, c'est Stéphane, 40 ans, qui est le 85e invité du podcast. Breton d'origine, désormais exilé en Suisse, Stéphane vous invite à partager ses souvenirs, que ce soit ses premiers émois avec une scène très précise d'un film de Michael Jackson, ou encore ses diverses rencontres à 20 ans, de jeunes filles, puis plus ou moins de jeunes femmes qui vont lui apprendre les délices et plaisirs de la sexualité. Chacune lui laissera son empreinte qu'il se remémore avec plaisir et lyrisme. Stéphane partage également une période de sa vie où il s'est laissé totalement submerger par une angoisse très intense qui, pendant une dizaine d'années, va fluctuer au fil de ses relations. Il est en proie à un délire quasi psychotique de contracter une MST, particulièrement le VIH. Il expliquera comment, avec l'aide de professionnels de la santé mentale, il s'en sortira. Dans sa trentaine, au fil de ses relations de couple, bien qu'amoureuse et heureuse, Stéphane se sent dépossédé de sa confiance en lui, que ce soit dans sa virilité ou sa sexualité, et ce, malgré des partenaires aimantes et à son écoute. Il ne se sent pas totalement épanoui et c'est à force de réflexion, de discussion, mais aussi et malheureusement d'un burn-out à l'aube de ses 40 ans qu'il va comprendre qu'il doit redéfinir ses besoins intrinsèques à son bonheur et notamment que le schéma qui lui convient le mieux est la non-monogamie ou encore le couple libre. Cet épisode est enregistré à ce moment précis de la vie de Stéphane où il est aux prémices d'une toute nouvelle prise en main de sa façon de relationner. Je vous souhaite une excellente écoute. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Stéphane qui nous vient tout droit de Suisse.
Tu connais
le podcast. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité?
Ah, direct.
Waouh. Ouais, je sais.
Oh là, mais on va tellement fort, tellement fort. Donc lié à la sexualité de près ou de loin.
Exactement. Oh, quel âge tu as et est-ce que tu t'en souviens?
Alors là, ok, moi je pensais qu'il y aurait des préliminaires, tu vois,
mais
ça n'existe pas en fait, c'est fini ça. Oh là là, donc première émotion, mais sexuelle, ouais, qui touche à ça quand même.
Oui, après ça peut être l'érotisme, chacun
ouais,
après il
ouais,
met...
Ouais, bien sûr.
Déjà,
ouais.
T'as à peu près quel âge, tu t'en rappelles?
6-7 ans.
Ok.
Ouais, j'étais au cinéma,
ouais,
avec mes parents, et puis on avait été voir donc au Cinoche, parce que moi j'étais un énorme fan de Michael Jackson, j'adorais faire les chorés à la maison, foutre la nuit, foutre la fête et tout.
Ah, c'est la génération, t'as 40 ans, hein,
mais
donc
bien
on,
sûr,
est, on est
ouais,
dedans. Hein.
Oui, et puis du coup on avait été voir son film, là, son ego trip incroyable qui s'appelait Moonwalker.
Oui.
Et donc moi j'étais hyper fan, c'était déjà, bah, déjà je le regardais tu vois, comme une star, tu vois, déjà le côté ouais, t'es gamin, tu vois une star comme ça tellement accomplie, tellement charismatique.
Puis c'est mais... l'époque où il y a vraiment, les stars sont intouchables.
Exactement.
Il y a vraiment un truc où il y a eux et le reste
du exactement. Donc en fait, il était déjà sur un énorme piédestal. Et ensuite, ouais, je vais voir ce film, donc écran noir. Donc tout le monde disparaît, le monde extérieur disparaît, le temps disparaît. Et je pars dans son ego trip. T'arrives vers un peu une espèce de petit storytelling à la fin. Donc, en fait, c'est un peu des clips.
Mm-hmm.
Et puis le dernier clip est un peu plus long. Il fait genre une demi-heure. Il raconte vraiment une histoire semi-construite. Où Michael, en fait, c'est un espèce de gardien des enfants de rue, un espèce de semi-Chicago. J'ai envie d'un modèle, tu vois, parce que là, en plus, tu vois, dans le film, il a la monstre classe, super élégant, les petits
évidemment,
costumes. Voilà, tu te dis, bon, c'est un certain idéal, très particulier, mais c'est un certain idéal, tu vois. Et donc, voilà, et puis, donc, il a ses pouvoirs magiques, il a sa bonne étoile, tu vois, quand il est un peu dans la merde, voilà, il a sa bonne étoile qui apparaît dans le ciel. Et donc, typiquement, ben, voilà, il veut défendre les enfants des rues d'un méchant drug dealer qui a des moyens, semble-t-il, illimités. Le mec, il a sa propre armée. Il s'en sort en se transformant en voiture de course. Ok. Déjà, soit, donc, il arrive à jumper au-dessus des...
tout à fait la scène.
Tu te souviens?
Oh,
c'est vrai, tu te souviens?
Ah ouais. Si je retrouve ça sur YouTube, je le mettrai.
Mais bien sûr.
Ouais.
Mais ça, c'est le préambule. C'est même pas le gros truc.
Tout à fait la scène
sans deck.
Où...
Donc déjà, c'est une espèce de petit préambule un peu... ça titille un peu, on sait pas trop ce qui se passe.
Donc de l'homme qui devient machine ?
Ouais, il y a déjà un truc un peu chelou qui se passe. Évidemment, Michael avait mis tout Hollywood sur le coup, donc les bruitages étaient extrêmement raffinés, extrêmement intrigants, avec une espèce de pudeur assez forte. Tu vois rien, en fait, tu vois juste une ombre qui change, et tu comprends pas trop ce qui se passe. Donc du coup, ça fait marcher l'imaginaire à pleine balle. Et voilà, et donc il arrive à s'en sortir. Voilà, hein, une espèce de semi-course-poursuite. Et à la fin, il redevient humain, et puis et tout est bien dans le meilleur des mondes. Ok, sauf que sur le moment, tu vois, ça plante un peu une espèce de graine dans ta tête. Tu te dis, mais il y a des trucs magiques que je comprends pas. Qu'est-ce que ça fait en fait de se faire transformer en bagnole en fait, de savoir ce que ça fait en fait, de vivre ce qu'il vivait. Ça fait quoi d'être soumis à cette magie.
J'essaie de raccrocher où est le moment où tout ça te. Ça
voilà,
fait,
justement.
Ça te...
Voilà, et donc ça en fait, et donc c'était le ça. Planter un peu cette graine, et puis ensuite, il y a une scène suivante, où en fait, ça escalade, ça va au niveau encore suivant, qui est vraiment le climax du film, où là, Michael se retrouve carrément encerclé par le ramé, surtout une espèce de caverne, comme ça, à ciel ouvert, et puis là, il y a genre 200 soldats qui le tiennent en joue, les flashlights, tout, et puis, donc au milieu de cette scène vraiment extrêmement tendue au niveau du rapport de force, tu vois, sexualité, rapport de force, il y a tout qui se prépare aussi, vraiment, il veut triguer complètement, il veut sortir Michael de ses gonds, et puis il veut planter une seringue de drogue donc dans le bras de la fillette. Et là, à nouveau, voilà, ça, c'est la fin des haricots, Michael il essaie de la libérer, il se fait foutre par terre par les soldats, et hop, ah, la belle étoile apparaît dans le ciel, quand tout semble perdu. Et on arrive à la séquence un peu clé du film, qui est une transformation complètement magique et mystifiante de Michael en robot, quoi. En robot extrêmement esthétique, extrêmement, on va dire, intriguant, et une espèce de version un peu perfectionnée de lui-même, quoi.
De domination absolue, etc.
Ouais, et puis on imagine que le rapport de force était vraiment à l'opposé il y a genre 2 minutes, quoi.
Et toi, ça te fait quoi, là, quand t'es petit garçon ?
Et moi, je dis, mais... justement, ça me submerge. J'arrive pas à mettre une étiquette sur ce que je ressens. C'est hyper fort.
Ouais.
Et ça me submerge de tout mon corps et je n'arrive pas à mettre une étiquette dessus. C'est trop fort.
Tu vas y penser ?
Ah ouais, mais des années durant. Enfin,
je veux dire, quand tu le racontes, effectivement, 35 ans plus tard, c'est encore là, quoi.
Ah, c'est encore clairement là. Bon, en plus, j'ai fait un chemin, enfin voilà. C'était des années de travail sur moi-même qui m'a amené à le faire revenir et puis à le travailler, cette vision, cette marque. Mais oui.
Ça submerge.
Bah, y compris quelque part à l'entrejambe, il doit se passer un truc chelou aussi.
Ça t'a chaud.
Ouais, je suis submergé par un truc. Sans vraiment comprendre ce qui se passe. Mais c'est juste que voilà, le corps et l'âme sont complètement submergés.
Okay.
Et du coup, ça reste. Quoi. Et non, ça s'imprime. Tu t'en remets pas comme ça. Quoi. Et évidemment, on est à l'époque de la VHS.
Ouais.
Un an et demi après, ça passe sur Canal+. On l'enregistre. Le Stéphane, enfant, est préadolescent. Bah, il va chauffer la VHS dans les moments où les parents sont pas trop loin, et puis il va se repasser la scène en boucle, quoi.
Ah ouais.
Et voir en pause, voir en retour arrière, enfin, tu vois, les possibilités du VHS. Tu peux laisser libre cours à une obsession, tu peux décomposer le truc, tu peux te laisser fasciner sans limite. Et progressivement, l'aspect sexuel s'est développé.
Okay.
Ça, progressivement, ça s'est associé à ça.
Ma deuxième question, c'est est-ce qu'on parlait de sexualité facilement à la maison ?
Ben, pas tant.
Si t'avais des questions, t'avais des gens qui y répondaient ?
Ouais, j'imagine que je pouvais poser des questions à mon père, ouais.
Mais c'était pas...
Il était pas... Enfin, il allait pas me rejeter quand j'arrivais avec une question sur le sujet, mais on sentait qu'il avait pas vraiment... Enfin, il était lui-même un peu emprunté, comme on dit en Suisse.
T'as des frères et sœurs avec qui tu peux en discuter ?
Alors, j'ai... À 6 ans, j'ai eu une petite sœur. Mais à nouveau, bah là, c'était la petite. Donc, du coup, il n'y avait pas le côté mentorat
grand, oui,
de quelqu'un. Voilà. À 40 ans, on se rend compte qu'on peut partager certaines choses parce que tu peux les framer, les contextualiser. Quand t'es gamin, tu dis non, c'est moi, je suis déviant, je suis bizarre, il faut absolument que je garde un
secret. Ah ouais, t'as senti que t'étais bizarre quand tu...
Ah oui, je me jugeais à fond.
Okay.
Je fermais la porte, je guettais le moindre bruit. Hors de question de me faire prendre en train de masturber sur une scène pareille.
Ok, comment tu rentres justement dans la préadolescence, l'adolescence ? T'as des copains à l'école avec qui...
Quelques-uns, vraiment, mais sur une main, sur les doigts d'une main. Vraiment très... par contre, très loyaux. Quelques potes très loyaux, mais très, 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 très peu, quoi.
Okay.
Ouais, vraiment moins de 5.
Donc ton corps grandit, le corps de tes potes grandit. Comment tu... T'es à l'aise avec ça, avec ce corps qui
pas
change?
Pas trop. Enfin, je suis content d'aller vers l'adulte parce que là, j'ai envie de ça. J'ai envie de l'autonomie, j'ai envie de...
D'accord.
Voilà. Pas dans une relation extrêmement facile avec mon corps. Je pense que la relation était hyper facile jusqu'à l'âge de, je crois, 6 ans, bah, un peu avant que j'étais voir ce film-là. Je me souviens qu'il y a eu un peu ce déclic, qu'on a un peu tous finalement, mais vraiment avant 6 ans, j'amusais la galerie avec mes chorégraphies dans le salon, oui. J'en avais rien à foutre de mon corps. Voilà. Et à un moment donné, il y a eu un espèce de déclic où je me suis rendu compte que je pouvais être ridicule.
Ah, intéressant.
Mon grand-père était entraîneur de football pour la commune. Il m'avait dit, Stéphane, viens avec nous, et puis voilà, je vais te trouver un survêtement, t'auras le survêtement rouge comme tout le monde, voilà. Et du coup, et puis à un moment donné, il y avait le regard de tous ces autres gamins, tu vois, il y avait 30 autres gamins, voilà, et puis d'un seul coup, il y a le déclic, tu te dis, ah ouais, mais si je fais faux, je vais être ridiculisé.
Ah ouais.
Mon corps, il est observé.
Et tu prends conscience de tout ça à ce moment-là, quoi.
Ouais, et là, d'un seul coup, il y a une espèce de mise à l'écart un peu de mon corps, enfin légère, enfin ça va,
oui,
j'ai pas
sûr.
Eu de dissociation, mais à un côté, ah ouais, je me rends compte que mon corps pouvait me desservir et pouvait me
être ton allié sur tout quoi.
Ouais, que je pouvais être ridiculisé avec ce corps, quoi. Si je faisais des choses dans le domaine du sport, typiquement, voilà, tu loupes pas un truc devant tout le monde, on se fout de ta gueule, surtout les gamins sont pas tendres entre eux.
Ouais,
donc voilà, donc il y a eu des espèces de sécession et qui a mis beaucoup de temps à se recoller.
Donc, quand tu rentres dans l'adolescence, préadolescence, t'as les hormones qui commencent un peu à...
Ouais, ouais, bien sûr, ça commence à bien. Ouais, mais bien sûr.
Et comment ça se passe au collège
ça mate, hein.
Ça mate les
filles.
Bah,
c'est clair.
Ça mate les garçons, ça mate les filles.
Ça mate les filles, ouais, ça mate les filles, c'est clair. Ben, en fait, continuité, en fait. Tout s'est beaucoup passé par le regard, pour moi, en fait. Pas par le toucher. Tu vois, en tout cas jusqu'à très 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 tard. Autant on peut pas toucher la divinité Michael qui devient un robot magnifique, non mais sans déconner.
Ouais.
Autant tu peux pas toucher la divinité fille. Divinité, putain, non, en fait, non. Enfin, en fait, voilà, mais je partais de là, tu vois, quand j'étais gamin. Évidemment, tu fais tout un chemin après dans la vie pour te rendre compte qu'on est tous des êtres humains et qu'on galère tous avec. Sauf Michael Jackson. pun intended.
Et donc, tu mates ces filles-là.
Je mate, ouais. Bah, le collège, ça arrive. Tu vois aussi, ça arrive chez les nanas. Elles commencent à changer. Commence à avoir des formes, des fesses, des hanches, des épaules, des nuques. Voilà.
Enfin, tu fais tout le...
Voilà, non, mais oui. Oui, non, mais
tu fais partie du corps, quoi.
Oui, quelque part. Il se passe des choses, quoi. On les voit bouger, je les vois bouger.
C'est là où tu commences aussi, toi, à t'intéresser aussi à ta propre... Bah, ton corps à toi, est-ce que tu commences à toucher, est-ce que tu découvres un peu ton corps,
t'explores? Ouais, je crois que masturbation, ouais, mes premiers souvenirs, c'est ça, 6e, 5e, quoi.
Ouais.
Plutôt 5e, je crois, c'est assez clair en 5e.
Ok, au moment où tu commences à rentrer dans ta puberté, quoi.
Ouais, ouais. Et là, en fait, il y avait ce côté, j'enregistrais dans ma tête ces stimuli, en fait, de la journée.
Bah, c'est vrai que t'es d'une génération, il n'y avait pas non plus beaucoup de support.
Non, tout ce
qui
devait se passer
dans la tête. Il n'y a pas d'ordinateur, ou alors il est dans le salon, c'est pas facile, quoi.
Ouais, donc je me laissais impressionner littéralement comme une plaque sensible par les nanas à l'école. Et puis, bah, je revenais dans ma petite chambre, mon petit bureau, avec plein la tête de ces souvenirs. Comme tu te repasses le film, justement, tu vois, tout est lié. Et eh ben ouais, je me souvenais, ah ouais, cette fille incroyable, elle avait une qui s'appelait Melinda, qui était brune, les cheveux de jet. Et ouais, et du coup, ben typiquement, ça a été mes premiers objets de masturbation, peinard dans l'intimité.
Nice.
Et puis le bonheur, c'est que... Enfin, il y a un truc super cool en plus au niveau logistique, c'est que pendant les 6 premiers mois, en fait, il y a un qui sort.
Eh oui.
Le bonheur, quoi.
Ouais, donc t'as pas d'intendance à gérer.
C'est tellement bien.
Il n'y a rien à... Il n'y a pas de mouchoir.
T'es la première personne à qui je mentionne ça. C'est un truc que je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler.
Il y a quelques invités à ta place qui me l'ont dit. C'était génial.
Mais c'est magique,
ça. La première masturbation, c'est que tu n'as rien à penser à chercher le Kleenex, le machin, le truc et tout. Ouais. Et au bout d'un moment...
Ouais, ben, feu d'artifice, quoi. Ouais.
Et donc, du coup, donc ça, tu passes comme ça ton collège. Est-ce qu'il y a quelque chose de significatif qui va se passer et qui va te marquer particulièrement?
Ouais, ben, enfin, ou plutôt quelque chose qui va ne pas se passer.
C'est ça. Parce que comme j'ai fait des bons élèves, j'ai relu hein, tout ça. Et donc, je sais que ça va arriver pour toi un peu tardivement.
Ah, bien tardivement.
Enfin, sans jugement, bien
non,
sûr.
Bien sûr.
Mais
moi aussi, je suis passé au-delà du jugement. C'est mon histoire perso et tout
exactement.
Va bien. Je peux la refaire, mais c'est plutôt ce qui se passe ou pas.
Est-ce que tu m'expliques aujourd'hui pourquoi ça s'est pas passé?
Ouais, la confiance en soi. C'est-à-dire que j'avais pas confiance en moi. Et donc, la non-confiance en soi, ça rayonne négativement. Du coup, je pense à éloigner les filles, quoi, clairement.
Ouais, tu t'es pas positionné, t'as pas su trouver ta place auprès de ces jeunes filles.
J'essayais un tout petit peu. La seule formule qui marchait, c'était les coups de téléphone. Il y avait, tu sais, à cette époque dorée où tu devais passer le firewall des parents. Et donc, oui, il y avait une nana qui s'appelait Amélie. Des fois, on s'appelait le mercredi après-midi, on passait 2-3 heures au téléphone. Et donc, c'était ma seule expérience d'intimité avec une nana, c'était parler au téléphone un peu tout.
Ah, c'est chouette.
Des fois, aller un petit peu sur des trucs, ouais, pas sexuels, mais un petit peu...
Oui, et puis il y a eu Caramel.
Caramel, c'est le jeune
adulte.
C'est quoi,
adulte. Ah oui, d'accord, c'était
moi,
pas
le... Moi, j'y étais dessus, jeune adulte. Moi, quand j'ai commencé sur Caramel quand j'étais étudiant, mais pas
d'accord,
avant.
D'accord, t'y es pas allé avant, parce que ta génération, c'était déjà collège-lycée, il y avait des
Caramel,
chats. Caramel, pour ceux qui connaissent pas, c'était donc les premières messageries, hein, et il y avait des chats,
ouais, des
salons
rooms, comme ça,
quoi,
ouais.
Ouais, des salons, et qui étaient divisés par âge.
Âge et
région.
Et région, ouais.
C'est ça. Et en fait, c'était trop marrant. Tu rentrais dans le forum et puis tu papotais et puis tu pouvais avoir des conversations privées.
Fabuleux.
C'était incroyable.
Fabuleux.
Ouais, moi, j'ai passé des bons moments
mais
sur Caramel.
Mais moi aussi, mais franchement, mais c'est...
Ouais, ouais.
Ouais.
Donc, du coup, t'as cette intimité, cette amitié, on va dire, avec Amélie, mais effectivement, tu connectes pas avec de jeunes filles outre ce rapport amical.
Non.
Donc, tu vas passer ce collège, ce lycée. Et puis, tu vas avoir ton bac, commencer tes études.
Ouais, exactement, ouais, ouais.
Et donc là, t'es autour de la vingtaine.
Ouais, on arrive gentiment à la vingtaine, ouais.
Et que se passe-t-il ?
Bah, Caramel.
Justement.
Caramel a porté ses fruits. Ouais, et quelque part, ça me ressemble aussi, cette histoire, tu vois. Ça devait passer d'abord par un truc un peu abstrait, tu vois, par un truc...
Par de l'écriture ?
Par l'écriture aussi, ouais, qui est quelque chose que je pratique de plus en plus. Qui m'aide énormément à me découvrir, à me construire. Et donc, oui, ça passait par l'écriture et ça passait par un truc abstrait, un truc qui où le corps n'était pas en premier.
Mmh.
Où c'était d'abord.
C'est pas l'image, quoi.
Si on idéalise un peu, c'était un peu l'âme. D'avoir une rencontre des âmes. Il n'y avait pas de photos à l'époque sur Caramel. Il n'y avait pas de photos.
C'est vrai, c'est vrai. T'as fait
des pseudos. Des pseudos. Et puis, tu commençais souvent par dire ASV, SVP.
Ah oui, c'est vrai. ASV, âge, sexe, ville. Donc, tu donnais ton âge, si t'es un garçon ou une fille, et d'où tu étais. Et c'est vrai.
Et tu devais te démerder avec ça pour imaginer la personne. et faire confiance ou pas, et savoir si tu voulais aller plus loin. Et moi, je trouve ça super chouette, parce que finalement, maintenant, c'est swipe left, swipe right. Et du coup, ça se passe en une demi-seconde au faciès.
À la photo.
Et tu peux louper des personnes super intéressantes.
Je suis d'accord avec
toi. Et même des personnes potentiellement très belle, mais que la photo n'a pas servi.
Oui, ou en tout cas, ou alors il y a trop de filtres, ou trop de ceci, ou trop de cela.
Donc, moi, finalement, il y avait un côté nivellement du terrain par Caramel,
c'est
qui
vrai.
Était très chouette, tu vois, ce côté low-tech. Ouais. Je suis sûr que ça va revenir. Je suis sûr que
Attends,
ça va revenir.
Attends, t'y crois ?
Je vais lancer le truc.
Le
Caramel V3.
Donc, tu commences à connecter avec des filles sur Caramel.
Ouais, ça commence à matcher, je commence à trouver un certain style, j'en sais rien. Ma tagline, c'était « Bonjour vous ». Taux de conversion 1 sur 80. Je stigmatise un peu, mais effectivement, c'est un peu... Voilà. Mais en tout cas, moi, j'arrivais pas à d'abord aborder dans les salons publics, parce que j'arrivais pas à... Pour moi, ça devait se passer en one-to-one.
Okay.
Et c'est toujours comme ça, plus ou moins maintenant. C'est-à-dire que dans les soirées, je peux parler à des gens, c'est cool, mais moi, je privilégie la qualité du focus sur une personne en one-to-one. C'est le mode dans lequel je suis plus à l'aise. Et donc, voilà, donc ça commence à matcher. Et puis, une nana qui s'appelle Marina. Finalement, Marina, je tiens mon chapeau. Ça a été dans ma région. Et on a matché, si ça ne s'appelait pas encore comme ça. On a bien discuté et puis on a fini par convenir d'un date, quoi.
Ouais, et alors ?
Tu te
rappelles les sensations avant le date ?
Ouais, franchement, je pense que j'étais vraiment tout retourné, quoi. J'étais totalement retourné, c'était vraiment le terrain inconnu, tu sais. Mais c'est l'espèce de sweet mélange entre anxiété et excitation. Les deux sont exactement au même niveau. Le fait qu'il n'y en a pas un qui prend le dessus et tu continues, en fait.
Ça te manque pas, ça ? Des fois, j'ai de la nostalgie pour ça. Tu sais, pour ce truc où tout tourne autour de ça, tu cristallises sur une sensation comme ça entre l'excitation, l'anxiété, le...
Ça reste quand même très très fort. Quand j'ai encore des dates aujourd'hui, le premier date, c'est toujours quelque chose. C'est une très forte énergie.
Il garde cette énergie.
C'est pas la même que le premier date de ta vie.
Ouais.
Voilà, never as good as the first time, chantait Sade.
Et puis t'as l'âge, tu t'appréhendes mieux maintenant, j'imagine.
Ouais, enfin, à la fois tu ressens, t'accompagnes tes émotions, mais tu es un peu blindé.
Il y a encore un peu d'électricité.
Ah ouais,
okay,
clairement.
Super.
Surtout que moi, je mets relativement peu de distance entre moi et mes émotions, mes sentiments. Je vis de la vie à fond parce que, a priori, il n'y en a qu'une de documentée. Et donc, du coup, je veux vivre mes sentiments à fond. Donc, effectivement, encore maintenant, le premier date, ça. ça y va, quoi.
Ouais. Donc là, tu vas rencontrer Marina. Comment Marina. Ça se passe?
Alors, je crois qu'on s'est donné rendez-vous, truc que tu ferais plus jamais maintenant, mais on s'est donné rendez-vous chez moi, quoi. Elle est venue chez moi, mon appart, étudiant, était très sympa, était assez grand, j'avais de la chance. Et puis on papote, quoi. On papote, je sens qu'il se passe un truc.
Voilà, vous savez que c'est romantique, ce rendez-vous. Vous étiez déjà parti un peu sur un plan drague?
Oui, ouais, on se dragotait quand même. Ouais, c'était pas... Ouais, on se dragotait quand même. Okay. C'était pas amitié-amitié, on se dragotait. Voilà, je suis sur ma chaise de bureau, elle est sur le coin du lit, on se regarde, on se rapproche. Non mais, il y a un avant et un après.
Bien sûr.
Le premier baiser dans une vie, quoi.
Bien sûr.
Immense, quoi. Je vais pas dire que je chéris ce moment en soi, mais c'est quand même...
Oui, il est marquant, bien sûr.
C'est un cornerstone, quoi. Tu peux quand même pas le négliger. Donc...
C'est elle qui fait le premier pas. Est-ce que toi, tu le vis comment, toi? Parce que tu as 20 ans à ce moment-là. Comment tu le vis par rapport à tes potes ou aux autres personnes? Tu t'en fous? Ça te pesait un peu?
Oui, ça me pesait. Mais à mon âge, je m'étais dit, écoute, c'est ta propre histoire. Mm-hmm. Et puis au final, on s'en fout des autres, quoi. Il y avait un moment où j'avais vraiment acquitté le fait que j'étais pas sur le même tempo que les autres, que les premières galoches pour la plupart que je voyais c'était à 12-13 ans, je sais pas, le spécial qui s'est passé à 20 ans. Ouais.
T'avais confiance que ça arriverait?
Ouais, je savais qu'il y avait déjà, j'avais cette faculté, bon, ça sonne toujours un petit peu pompeux de dire ça, mais de charmer,
ouais.
Tu vois, ne serait-ce que par les mots, et donc je me disais, ouais, je veux dire, c'est une question de temps, quoi.
Ok, donc il y a ce baiser avec Marina.
J'en ai même pas parlé. Elle se penche sur moi et je me souviens avoir écrit dans mon journal le soir, mais donc j'étais extatique, j'ai tout noté. Un truc chaud et gluant est rentré dans ma bouche. Et donc, waouh, quoi. Donc, c'est-à-dire, j'en ai eu pour mes sous, quoi. Ouais, je m'en souviens encore. C'est vraiment un truc qui n'a rien à voir avec les sensations que tu as eues tout le reste de ta vie avant. C'est pas comparable avec rien d'autre.
C'est vrai.
Le premier baiser, c'est. Et surtout quand t'as pas l'initiative. C'est-à-dire que.
Ouais.
D'ailleurs, je me demande comment c'est le premier baiser pour les gens qui ont l'initiative. Parce que tu sais pas le faire, donc comment tu le fais? Et donc voilà, donc Marina, merci de m'avoir initié. Je t'en serai toujours reconnaissant. Et tu m'as pas initié qu'au baiser d'ailleurs.
Ah ah, qu'est-ce que nous a fait Marina? Il a fait un regard caméra sans caméra qui était parfait.
Bah, on est là pour ça, non? Bon.
Donc.
On est on the verge ou on ne l'est pas, quoi.
C'est pas faux. Donc avec Marina, vous rentrez dans une relation?
Alors justement, pareil, alors moi j'arrive à 20 ans, les étoiles dans les yeux, élevé à Walt Disney, Star Wars, tu te dis, bon ben voilà, tu te dis c'est ma princesse, alors il y avait le niveau de déconstruction zéro, faut bien partir de quelque part.
Exactement.
Et donc du coup pour moi, baiser égale relation, c'était ok, on est ensemble,
un baiser
tu vois.
Mais égale bien sûr. Relation. Ouais.
Très vite, elle m'a dit, mais non, moi je me vois pas comme ta petite amie.
Ok.
Donc elle, du coup, finalement, merci aussi Marina, parce qu'à 20 ans, tu m'as déjà posé la petite graine de la déconstruction qui a mis beaucoup de temps à germer.
Bah, surtout que hyper... Enfin, là, on parle de ça, c'est les débuts des années 2000.
Ouais.
Vachement...
Ouais, quelque part. Mine de rien, ouais.
Bah oui.
Elle était pas en retard. Hein.
Ouais. Ah non, pas du tout.
Et puis elle assumait le truc. Elle disait...
Elle était un peu plus âgée, elle, ou pas du
non,
tout? Non, d'accord.
Peut-être même un an de moins.
D'accord, ouais. Mais elle est partie du principe, ok, on s'est roulé des pelles, on se voit un peu, mais on n'est pas ensemble.
Ah non. Non, absolument. Et du
incroyable.
Coup, moi, j'avais quand même du mal à démordre, en fait. Je voulais continuer à la séduire pour qu'elle...
Oui, ce soit ta petite amie.
Bah oui.
Okay.
Parce qu'il y avait cette association...
intimité égale... Relation.
Maison émotionnelle, tu vois.
Okay.
Et ça, du coup, waouh, il y a eu tellement de chemin de fait. Et...
Donc, avec Marina, tu rentres dans une relation unilatérale.
Oui.
Et donc, vous commencez à avoir des moments d'intimité.
Ouais. Et donc, des galoches. Elle m'a très, très bien appris, je pense, à rouler des pelles, je crois. J'ai l'impression qu'il y a deux grandes écoles de pelles. Et je pense qu'elle est dans la bonne. C'est du gros modèle mental à l'emporte-pièce.
OK.
Mais franchement, elle savait y faire, quoi.
OK.
Elle roulait des pelles magnifiques. Et donc, évidemment, l'une chose entraîne dans l'autre, ça excite une galoche, quoi. Tu vois, t'as 20 ans, ça y est, le corps est bien fait, il est bien formé, une galoche, ça commence à appeler la suite, quoi. Et pour la suite, Marina n'était pas motivée.
Elle voulait pas avoir de rapport sexuel.
Pas avec moi. C'est-à-dire, avec d'autres hommes, elle me disait j'en ai, mais avec moi, non.
Elle t'a expliqué?
J'ai jamais vraiment compris, j'ai l'impression...
Elle savait que tu avais jamais eu de relation.
Ouais, elle savait. J'ai l'impression qu'elle voulait pas que ce soit moi, que ce soit. Elle voulait pas que ce soit elle.
Elle voulait pas
fait.
Te dépuceler.
Elle voulait pas que ce soit elle, en fait.
Prendre cette responsabilité.
Et j'ai responsabilité et même, en tout cas, ce que je retiens, c'est que elle pensait pas être la nana pour ça, en fait, pour moi.
Bah, et, voilà, plutôt c'est... smart, hein, comme ouais, réflexion avec le recul.
Elle se disait, ouais, je... c'est comme si elle... C'est comme si son message, c'était « je méritais mieux qu'elle ».
D'accord. Pour une c'est comme ça, en tout cas, toi, tu l'as
interprété. Ouais, mais vraiment, ouais.
Ouais. Donc, du coup, tu n'as pas de relation sexuelle pénétrative.
Ouais. Mais...
Mais...
un soir, on a un date assez tard. Elle se pointe à, je crois, 11h du soir dans mon appart, Marina. Et puis, elle est un peu, ouais, un peu à gauche, à droite, pas vraiment dans, ses, dans, dans son assiette. Et elle m'explique qu'elle revient de chez un mec et qu'elle a baisé, quoi.
Voilà. Ok.
Ok, ok. Ok.
Toi, puis... t'étais ok avec ça, le fait qu'elle voyait les partenaires
en fait, ouais.
Et tout.
Okay. Et puis, ben, bon, en fait, ouais, tu vois, ça commence à agiter un peu les tripes, tu vois. Ouais. Même si le cerveau, c'est pas trop, les tripes.
T'es un peu attaché.
La jalousie, il y a une espèce de truc, tu vois, qui joue dans les tripes. Tu te dis, tu sais pas trop comment intégrer cette information. Mais j'étais pas en colère. Et puis, il y avait aussi le côté, mine de rien, j'avais l'impression de pas être très demandé sur le marché. Et donc, du coup, logique économique, tu te dis, qui sont totalement débiles et inappropriés. On est d'accord. Tu te dis, bon, ben, ok, je ne vais pas faire la fine bouche. Elle gère les choses comme elle veut.
Donc Marina arrive ce soir-là. Elle arrive à 11h. Elle est un peu.
Elle est un petit peu à gauche, à droite, pas vraiment, là. Et puis, elle sent que moi, je suis triste, quoi. Elle sent que je suis triste, qu'elle a couché, elle a fait l'amour avec un mec ce soir-là. Et elle sent bien que je suis triste, qu'elle refuse de le faire avec moi. J'imagine qu'elle se dit, ben, je vais peut-être quand même le réconforter parce qu'il est vraiment totalement. Me fait une fellation de tous les dieux, un truc qui reste pour toute la vie. Elle l'a fait ça, mais non mais et puis c'est ça. Puis c'est si l'introduction est bien, après la barre est très haute pour toutes les suivantes. Hein. Et après 20 ans de vie sexuelle, je peux te confirmer que t'as posé la barre très très haut.
Encore.
Il faudrait qu'on se revoie et que tu m'en fasses une pour que je refasse un petit un benchmark, mais.
Mais c'est quoi? C'est parce que c'est la sensation. C'est vraiment avec.
Il y avait tout en fait. Il y avait ce côté acte, le côté. Tu vois, tu vois les Anglais qui disent go down on, tu vois, il y a un côté quand même très intime, très fort quand la personne te vire ton pantalon et te prend en charge, quasiment te prend en main littéralement et en bouche. Il y a un côté waouh, c'est ça décoiffe quoi.
Et puis j'imagine en plus que tu t'y attendais
mais non
tellement pas.
Mais non, je me disais, bah, ok, c'est cuit, on fera pas l'amour, et donc je m'attendais pas à autre chose quoi. Et ben.
Force de proposition, Marina.
Ah, mais elle a rien dit, ça s'est fait sans un mot, quoi. Elle m'a viré mon chute et puis. Et elle m'a gobé. Et c'était un truc de fou, quoi. Non, mais.
Ok.
Ouais, délicatesse. Non, mais franchement, c'est vrai que ça m'embête de passer trop vite là-dessus. Enfin, tu pourras éditer, mais. Non, mais vraiment, là, il y a un hommage à faire. Parce que c'est
un hommage à Marina.
Non, mais tu vois, c'est arrivé très tard pour moi, mais c'est arrivé plutôt bien, tu vois.
Ah
et
oui,
c'est pour ça que je suis reconnaissant, parce qu'il y a des gens qui ont eu plein de premières fois de merde à 12 ans. Donc, en gros, la checkbox était faite, mais c'était de la merde, quoi.
Oui, puis je pense qu'émotionnellement, ils n'étaient pas toujours dans la capacité de bien l'accueillir. Que toi, t'as 20 ans, t'as passé un cap, tu vois. Comme tu dis, t'as dit très justement, t'étais bien dans ton corps. Enfin, tu vois, tu sais tes études, t'avais un appart. Enfin, t'avais créé vraiment
une sorte de sécurité.
Ouais, un cadre qui était très accueillant et disponible. Donc effectivement, je pense aussi que c'est pour ça que c'est aussi réussi ces premières fois.
Ouais.
Tu vois, elles sont pas...
Ouais.
Ok, donc du coup, Marina, incroyable.
Marina, le grand chelem, Oscar de la meilleure fellation.
Vous verriez,
en tout cas, à 20 ans,
elle est incroyable.
À rebenchmarker maintenant, attention. Et oh.
Ouais, non, bien sûr. Ouais. Mais
très très bonne entrée en matière, si je puis dire.
Ok. Donc là, oh waouh, un nouveau monde s'ouvre à toi.
Bah ouais, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment dans quelque chose qui s'appelle vraiment la sexualité. Ouais. Là, ça s'appelle plus autrement, quoi.
Ouais.
Après tant d'années comme ça, dans le fantasme, dans l'imaginaire, dans le non touché, ben ça a ouvert une phase de ma vie où vraiment ça a été caramel. Les serveurs ont sûrement chauffé à cause de moi, quoi.
Je trouve ça beau que malgré tout le fantasme que tu as mis et les attentes. Bah finalement c'est très réussi.
Mais ça a délivré quoi.
Parce que c'est pas souvent le cas.
Ah bah bien sûr, évidemment, si tu fais tout un build-up dans ta tête, ça va.
Et
ça, ouais.
J'ai eu des hommes à ce micro qui m'ont dit leur première fois c'était tout ça pour ça. Alors que toi vraiment parles encore avec les étoiles dans les yeux.
Bien sûr, et ça me reste maintenant.
Que ce soit la galoche, tu vois, qui est quand même entre guillemets anecdotique aujourd'hui, mais pas tant. Et c'est ça qui est beau, je trouve.
Ouais, non, il y a un art de la galoche, il y a un art de la fellation, et je pense qu'il y en est beaucoup à le penser.
Ouais.
Donc là, ouais, effectivement, et ça, c'est des choses aussi qui vous portent toute une vie.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on part après avec un a priori positif. On se dit, ah, dehors, dans le monde, il y a des fellations magnifiques. Tu pars en te disant,
ça existe.
Le monde est chouette, en fait. un biais positif qui va t'accompagner toute ta vie et dont je bénéficie encore maintenant, tu vois. Mon enthousiasme,
incroyable,
vient sûrement un peu de ça.
Carrément.
Des premières expériences positives.
Ah, je pense, hein. Voilà. Je pense que t'as complètement raison. Ouais. Donc, caramel, les serveurs.
Pendant 2 ans, date sur date, même une sorte de pré-polyamorie, en fait, gentiment.
Ah ouais.
Aussi. C'est-à-dire que j'allais pas garder mes mains dans les poches maintenant que je savais que je pouvais vivre des choses et que j'étais tout à fait digne de vivre des choses. Eh ben, Marina ne voulant pas être ma petite amie, j'étais pas tenu par les liens d'exclusivité.
Ah bah non.
Eh ben non. Eh ben non.
Et bah go.
Eh ben go. Donc je me retrouve à vivre des histoires plus ou moins folles.
Et donc ça date
ça
des nanas de ton âge,
ouais, plutôt
dans
mon
ta
âge.
Région.
Plutôt mon âge, avec quand même, j'ai entendu une voix de nana fascinante à la radio. Mm-hmm. C'était, tu sais, je rentrais d'une fête en bagnole. Et c'était une de ces émissions du soir, c'est où les gens un peu font leur confession.
C'était Macha.
Exactement. Et merci
Macha.
Macha
Meryl.
Exactement, merci, big up. Et j'entends cette voix un peu du sud, c'est un peu chantante, ouais, assez mystifiante comme ça. Mais c'est celle de l'interviewée qui s'appelait Sonia. Et ouais, là je me dis waouh. Et donc j'ai écouté son témoignage et j'étais vraiment complètement scotché.
Et c'était une femme plus âgée?
Ouais, elle avait 10 ans de plus. J'avais 20, elle avait 30.
Ok, ouais, c'est un sacré gap.
C'est un sacré gap à cet âge-là quand même. Mm-hmm. Ouais, c'est quand même, ouais. Qu'est-ce qu'on perd à tenter? Et du coup, j'ai écrit à l'émission, j'ai écrit à Macha, et j'ai eu les coordonnées, je crois, téléphoniques, je crois, ou postales. Et je lui ai écrit une lettre, manuscrite.
Elle t'a répondu?
Oui. Oh, et t'imagines le jour où la lettre revient, quoi. Le jour où tu reçois un cachet de lettre de Nîmes, avec une vraie écriture d'une vraie femme qui t'a écrit. Et d'un seul coup, ok, tu tiens une lettre dans la main qu'une nana a écrite avec ses mains, quoi.
Incroyable.
Donc vous, bah, tu te dis, en fait, la vie est belle, là.
Vous entamez quoi, une correspondance ou...
Correspondance, et puis on finit par se voir. Ouais, on se voit à Paris.
Et ça part direct sur de la séduction ou...
Ouais.
Ouais.
Et
donc tu vois Sonia à Paris.
Je vois Sonia à Paris, on se donne rendez-vous à Gare de Lyon, je me souviens. Ah. Elle m'a dit, j'ai une petite valise bleue, par SMS déjà à l'époque, en 2003. Ouais, été 2003, il faisait super chaud.
Donc déjà, t'as 20 ans, quoi.
Canicule, tu vois. Et moi, j'avais pris la route, mon père avait expliqué comment ça marche le périphérique, et puis... comment on rentre dans Paris en bagnole, qui est un hôtel Ibis à Montparnasse, un truc super générique. Évidemment, mais t'es provincial, tu connais rien, donc tu prends
bien
un truc
sûr
que tu connais.
Ça, c'est des Bretons, hein. Tout de suite, c'est Montparnasse. Hein.
Voilà, et donc, je la retrouve à Gare de Lyon, à l'arrivée du Sud, du coup. Et puis, alors attention, par contre, le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que autant sur le côté écriture-voix, c'était la folie, monstre connexion, autant sur le physique...
Ah.
Ça, j'arrivais pas à vibrer, quoi. Je vibrais pas.
Parce que c'était une femme qui avait 30 ans.
Non, parce que c'était pas l'âge.
Ouais.
C'était vraiment.
Physiquement,
là, ouais, il y a quelque chose, ça scotchait pas, quoi. Et là, non, je pars du jugement, il y a des goûts pour. Enfin, c'est les goûts et les couleurs, tu
bien
vois.
Bien sûr, évidemment.
C'est vraiment les goûts et les couleurs.
Mais vous n'êtes pas envoyé une photo?
Non.
Ah, ok.
Parce que moi, je pense que j'avais gardé mes habitudes de caramel, où en fait, jusqu'au date, on ne sait pas. Moi-même, sur Caramel, je demandais pas de photo.
Ah ouais?
Donc, je faisais des fois 300 bornes en bagnole pour un date sans la photo. Mais écoute!
Mais le foufou!
Mais le foufou! Mais en même temps, quand tu win, tu win.
Il est zinziflex, hein, ce Stéphane, quand même. Ok, donc.
Non, mais quand tu win, c'est-à-dire.
Ah, attends, non, mais bien
c'est-à-dire
sûr.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'espèce de photo JPEG dégueulasse pour te donner une espèce d'impression, voilà.
Ok,
c'est
nice.
C'est directement real life, donc c'est directement du stéréo, quoi.
Donc, tu vois, Sonia, pas ouf.
Pas ouf physiquement. Mais je me dis, cette fille est super intéressante. Elle m'a complètement scotché sur tous les autres aspects. Donc, je vais quand même lui donner une chance.
Bah, elle vient de Nîmes, tu...
Et je viens de Bretagne. Allez. Donc, je me suis dit, on y va. On va pour ce date. On va faire abstraction de cette surface.
Ouais.
Et on va quand même le vivre. Et donc, on marche dans Paris, on papote, on fricote, je la dragote, blablabla. Elle a du répondant, fille du Sud, tu vois. Et on se retrouve, on est dans la chambre, tu vois. Il fait très chaud, on se retrouve dans la chambre. En fait, j'ai été gâté par la vie. J'ai
bah,
que
ouais,
les super premières. Et alors...
Donc,
non,
Sonia,
première.
C'est ta première?
Non.
Ah.
C'est la première de presque tout, sauf ça.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, je m'étais aussi mis, du coup, je pense que Marina m'avait planté la graine de cette idée de devenir un peu exigeant avec qui serait la personne avec qui je ferais la première fois l'amour. Comme du coup, ça n'était pas allé de soi avec Marina, je me suis dit, ok, bah, ça va pas aller de soi, en fait. Et du coup, une partie de moi était devenue picky. Et donc...
Qu'est-ce que tu définis par picky?
Ça veut dire, je veux que ça sonne juste, de
d'accord
bout en bout. Je veux okay être 100% à l'aise. Je veux avoir aucun signal un peu chelou dans ma tête
okay
quand je fais la première fois. À un moment donné, on se retrouve dans la chambre, il fait chaud, machin, et puis, voilà, moi, j'avais quand même envie d'explorer. Et, alors, à nouveau, j'ai vraiment pas envie de de ne pas lui rendre hommage à cette Sonia, ben, l'obscurité de la nuit a permis de faire abstraction de cette surface. Et j'appelle vraiment ça surface.
Oui, pour pas...
Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est une infinité de dimensions.
Bien sûr.
Et on est une infinité de choses. Et donc, j'ai enlevé une dimension. Et du coup, j'ai pu me concentrer sur tout le reste.
Tout le reste, bien sûr.
Et tout le reste, c'est quoi? C'est la peau, c'est les odeurs,
c'est la voix de Sonia.
C'est un million d'autres dimensions pour lesquelles, avec Sonia, ça le faisait, quoi. On a passé une nuit comme ça de dingue où elle m'a vraiment initié au corps d'une femme, à l'interaction entre les corps. Donc en fait, on a tout fait sauf faire l'amour, mais on a tout fait, quoi.
Okay.
C'est vraiment le côté première caresse. Sonia m'a appris à caresser une femme.
Ok.
Et elle m'a dit un truc à l'oreille, je me souviens toujours. J'arrive avec mes doigts près de son sexe, et puis elle me dit doucement, elle me murmure à l'oreille, doucement, il y a des fruits qu'il faut savoir cueillir. La folie,
ASMR,
quoi.
Ouais.
Et là, c'est le guide, quoi, en fait. Elle m'a donné le sésame
pour
toute une vie, en fait, Sonia. Donc merci.
Merci, Sonia.
Et du coup, ben voilà, donc une nuit, vraiment très belle nuit de caresses, de baisers, de découverte des corps. Et au final, donc on est passé très très près d'une pénétration, mais on ne l'a jamais fait. Donc on a fait tout le reste. Vraiment du sexe contre sexe, des sensations de malade. C'est quand tu n'as jamais vécu ça, c'est...
Tu expliques pourquoi il n'y a pas eu cette pénétration?
Ouais, parce que je voulais pas... Je voulais que ça le fasse sur tous les plans avec la fille avec qui je
Donc c'est toi qui étais en...
Ouais.
D'accord, ok.
Et Sonia était respectueuse de ça. Elle n'a pas cherché à me la faire en douce.
D'accord. Oh, parce que ça peut...
Ouais, puis c'était bien mouillé, donc ça aurait pu. Hein. Donc non. Non.
Mais non,
là,
okay.
Sujet, il y avait un côté vraiment consentement, nickel. Ouais.
Et vous êtes resté en contact après?
On est resté un peu en contact. Mais effectivement, moi j'avais un côté... tu vois, au petit-déj, j'étais un peu gêné, tu vois. Au petit-déj de l'hôtel Ibis... le réveil était un peu trash,
on
tu vois.
On déchante un peu, quoi.
On déchante un peu. Je me dis à la fois, j'ai vécu une super nuit, mais en plein jour, non, ça le fait pas, quoi.
Ouais.
Et t'y peux rien. C'est vraiment, c'est des trucs, c'est du cérébral, t'y peux rien.
À aucun moment, elle ne l'a senti, ça, tu penses?
Je pense qu'elle l'a senti.
Ouais.
Bien sûr, je pense qu'elle l'a senti. Les femmes ne sont pas des idiotes, de loin. Mais voilà, donc on s'est dit au revoir, et puis moi, je me disais, bon... Ouais, et j'avais même limite peur qu'elle soit tombée amoureuse de moi et puis qu'elle me colle au basque, parce que je saurais pas quoi faire avec.
Ouais, elle a repris sa vie, quoi.
Elle a continué sa vie, quoi. Enfin, c'était un date, quoi. Voilà.
Super.
Et je pense qu'elle, du coup, elle avait 10 ans de plus de bagages, donc elle savait très bien
s'attendre. Pour elle, ça a dû être un petit moment aussi de folie, quoi. Ouais, tu vois, un truc
exactement.
Sympa.
Voilà. Donc je pense qu'elle a profité, j'ai profité, on était contents les deux, quoi.
Super.
Et chacun après son chemin.
Et donc cette première fois, comment se passe-t-elle? Cette première fois pénétrative, du coup. Hein.
Ouais. Alors ça se passe, ça démarre aussi sur du caramel qui vient du MSN Messenger. MSN Messenger.
Waouh, MSN Messenger.
MSN Messenger.
Whiz que...
Le whiz, non et bordel, quoi.
Donc tu rencontres, c'est quoi? C'est une nana que tu rencontres sur caramel?
Ouais, elle s'appelait Schtroumpfette, je sais pas quoi. Ouais. Non mais super drôle. Et voilà, ça qui était cool, c'est que ça démarrait aussi avec un côté déconne, en fait. Voilà. Avec... Elle s'appelait Anne. Mm-hmm. Et donc, Anne aussi, énorme gratitude pour toi. Voilà. Ouais, en fait, ce qu'il a fait, en fait, dès le début, c'est qu'avec Anne, il y avait un côté déconne.
D'accord.
C'est-à-dire que ça m'a permis de dédramatiser le truc, tu vois.
Ah, c'est cool.
J'étais déjà plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise qu'un an et demi auparavant. Donc là, on est en janvier 2005. Et ouais, ça déconne à fond. Et puis tout est léger, tout est... voilà, il y a un truc, quoi. Et il y a un truc qui permet de se dire, ok, c'est pas une demi-déesse, en fait. C'est juste un être humain. Et, et donc, de faire descendre comme ça du piédestal, mais sans aucune, on va dire, déchéance. Juste le côté mise à niveau, se dire, ok, en fait, on est les deux en train d'essayer d'improviser, en fait.
C'est ça.
Et elle a créé chez moi, j'ai l'impression, la sécurité, la simplicité.
La possibilité que ça le
que
fasse.
Que ça le fasse et qu'au moins on essaye, quoi.
Ouais, et pas de pression.
Non, pas de pression, ce côté déconne, ce côté léger, ce côté souriant. Et ça, vraiment. Et voilà, et là, du coup, je suis pas déçu d'avoir attendu, quoi. Parce que nouveau, c'était
comprends.
Une première, mais nickel. En fait, j'ai eu que des premières nickel.
Ouais, c'est cool.
Merci,
hein.
Le bon Dieu, quoi.
ou l'univers.
Ouais, ou whatever, le karma, je sais rien. En tout cas, là, j'ai été gâté, en fait.
Ah, c'est cool, hein. Franchement, c'est trop cool.
En fait, voilà. En fait, j'ai attendu, mais j'ai eu que du bon.
Et ça fait plaisir d'entendre ça.
Non, mais vraiment, merci, parce que là, de retracer l'histoire avec toi, je réalise, en fait, le bol que j'ai eu.
Ouais,
quoi.
T'as rencontré des chouettes nanas.
Ouais, à chaque fois, vraiment super intéressante, et je suis hyper reconnaissant à toutes, quoi.
Ouais,
mais vraiment.
Avec des jolis échanges.
Ouais, et du coup, avec Anne, chez elle, elle avait un petit appart mansardé, beaucoup de cachets, très cosy. Et elle m'a emmené dans son grand lit, et puis, première fois, quoi. Waouh. Et puis, en plus, avec le bonheur supplémentaire, sensorielle, qui est que en fait, elle venait de se faire tester au niveau des maladies.
Elle avait fait donc un test VIH, IST, MST, tout ça.
Et puis moi, n'ayant jamais eu d'expérience, je me disais, ben, je suis clean, quoi.
Oui, même si il faut toujours faire attention.
Et effectivement, MST, c'était pas IST, tout à fait... Sûr,
mais bon.
Voilà, non, non, effectivement, on peut toujours repasser le message à toute occasion qu'il faut faire très attention à ces choses-là et se tester autant de fois qu'il le faut. Mm-hmm. Mais
donc vous avez
du coup, on a eu une première fois sans capote, c'est, voilà, première fois non protégée avec du coup les sensations maximales, quoi, et les sensations qu'il faisait, c'est à nouveau, ça aurait pu être totalement incompatible au niveau corporel, et là ça l'a fait, c'était vraiment bon, c'était comme à la maison, quoi. C'était non mais sans déconner, il y avait vraiment un côté arrivé en fait, il y avait un côté. C'est Ulysse ou je sais pas quoi, tu vois, c'est ce côté, t'es tout au bout de ton odyssée, où vraiment, bah, en fait, entre guillemets, la fin de l'odyssée, si on veut, en tout cas, cette phase de première découverte, c'était le premier coït, et donc c'est arrivé maintenant, et en fait, la sensation qui vient, c'est en fait un sentiment de, pas de familiarité, mais un sentiment d'arriver quelque part, de très accueillant.
Ouais, ouais, je comprends.
Où c'est, voilà, c'est chaud,
c'est agréable,
c'est doux, c'est enveloppant, c'est... Et on a cette nana qui est super chouette, qui te regarde dans les yeux et waouh, quoi. Et c'est une très jolie première fois. Et donc, il y a un sentiment d'arrivée, de récompense un peu, quoi, de ce long cheminement vers la sensualité, la sexualité.
Et vous rentrez dans une relation avec Anne ?
Alors, ouais. Ouais. On devient petits amis pendant, je dirais, 2-3 mois. Très chouette. À chaque fois, le sexe, béton. Un côté art de vivre aussi. Elle aime bien bouffer. Ouais. Sensoriel en général, on aimait la bonne chair.
C'était de l'épicurisme absolu.
Épicurisme, voilà, donc sexuel, bouffe, tout. Et donc on a bien profité, vraiment. Au bout de 2-3 mois, je pense que c'est pas mal de mon côté. Je pense que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas forcément le carburant suffisant pour embarquer pour une relation au long cours.
Ok.
On s'était apporté un très joli truc. Mais moi, je ne sentais pas le truc hyper profond qui dit ok, on va faire.
On y va.
Voilà, toute la vie ou des années en tout cas. Donc, on s'est séparés tranquillement, en bon terme.
Et après, comment ça se passe ? Est-ce que tu vas enchaîner des relations ? Est-ce que tu vas avoir des relations longues ? Est-ce que tu vas explorer notre sexualité ? Comment ça va se passer pour toi ?
Bah, on arrive un peu sur une année charnière. C'est-à-dire que là, on est sur début 2005, où on a la première pénétration vaginale et un cap de passé. Je ne me souviens pas très bien, en fait. Ouais, je crois que j'ai eu encore... Ouais, cette année-là, encore, j'ai eu... je pense que j'ai dû avoir quelques autres relations sexuelles.
C'est marrant parce que chacune a sa signature.
Quelque part, ouais, c'est marrant. Ouais,
ça fait vraiment
une
genre...
pierre à l'édifice, quoi.
C'est ça, la galoche de Marina.
Mais oui.
Préliminaire avec Sonia, levrette de cette jeune fille.
Mais oui, je pense qu'il faut créditer les gens, en fait.
Créditons les gens.
Mais ouais, il faut... Il faut tirer le chapeau aux personnes qui nous enrichissent et qui
bien
nous passent des caps.
Je suis d'accord. Mais ça marcherait si on avait à peu près, tu vois, 6-7 heures d'enregistrement.
Ok, donc on va resserrer un peu. on va resserrer un peu. Donc, en gros, du sexe encore assez débridé dans cette année-là, jusqu'à, poum, d'un seul coup, premier flip MST.
Donc ça, comment il arrive, ce flip ? T'as une relation avec une jeune femme
Ouais, j'ai une relation donc avec cette fille que j'avais pas revue depuis très longtemps, relation très sexe pendant un mois et demi. Mm-hmm. Je me pose pas de questions sur le coup. Elle me dit « Ok, je suis en une relation longue. » Voilà. Ouais,
mais
voilà.
Vous relationnez sans préservatif ?
Sans capote.
Oui.
Ouais, bah bien sûr.
Pas ouf.
Bien sûr, pas ouf. Ouais, clairement pas ouf. Mais
parce que c'est pas que l'ISTM, c'était, hein, y a aussi les grossesses non désirées. Enfin, il y a pas mal de choses. Hein.
Il y a tout.
Ouais, ouais,
d'accord.
Ouais, ouais.
Je venais en fait d'un sentiment d'invulnérabilité.
Bien sûr, avant, ouais. Et donc, du coup, comment tu as ce moment de flip ? C'est elle qui t'informe ?
Non, en fait, il ne se passe rien de spécial. En fait, il n'y a pas d'événement extérieur. C'est juste qu'après cette relation très portée sur le cul, je rencontre et je tombe follement amoureux. C'est-à-dire d'un truc vraiment total, un truc sentimental.
Ok.
Je tombe follement amoureux de Émilie, la petite sœur d'un très bon ami à moi de Bretagne. Et là, je me dis, voilà, attention, petite sœur du super poteau, pas déconner là, attention, limite, il me la confie. Elle avait 5 ans de moins que moi. Un petit puzzle psychologique qui se met en place. Et là, un seul coup, pouf, peut-être le petit héritage cato qui arrive, avec ta vie un peu, là, un peu dépravée derrière 3 ans, là, maintenant que t'as ouvert la boîte de Pandore. Est-ce que t'es pas un peu sale pour Émilie ?
Ah ouais, carrément ?
Ouais. Bah. La narration interne, c'était ça. Et ensuite, bah, cette narration, elle a été figée sur un VIH.
Ah ouais, donc tu t'es fait un espèce d'obsession, stress absolu.
Total. Et d'un seul coup, tous les voyants ont rouge. Donc en fait, moi, je suis passé.
Donc là, tu flippes.
Je suis passé du je suis invulnérable à no one is safe.
Ah ouais.
Et du coup, gros chamboulement, parano, obsession. J'ai failli foirer ma dernière année d'école.
Oui, c'est tout ou rien, quoi.
Ah oui, bah, tout ou rien. Et du coup, j'ai commencé à. Voilà, je me suis fait tester.
Ouais.
Quand tu ouvres une boîte et que tu as de l'imagination, tu dis ah ouais, mais quand j'ai fait
C'est de l'obsession à ce niveau-là.
Obsession. Et du coup, c'est pour ça qu'à un moment donné, au bout de 20 coups de fil, ils m'ont dit écoutez, monsieur,
il faudrait peut-être
voir un psy, en fait. Voilà. Et ils m'ont foutu à la porte un peu. Mais en même temps, je les comprends parce que le problème n'était pas là, en fait.
Cristallisé d'une angoisse totale, quoi.
Voilà, méga flip parce que après j'avais peur tout le temps de l'avoir chopé et j'avais peur d'avoir contaminé Émilie, même en ayant fait gaffe, machin.
Ah ouais.
En imaginant des scénarios de contamination, genre ça saute des immeubles ou voilà.
Comment tu sors de ça ?
Une psychologue incroyable qui a complètement compris ce qui se jouait. Okay. Elle m'a directement mis en relation avec une doc qui m'a prescrit des anxiolytiques. Première fois que j'en prenais de ma vie, première et seule fois. Que j'ai pris de ma vie d'anxiolytique.
Mais pour calmer l'angoisse,
ça m'a
quoi.
Sauvé la vie, quoi.
Bien sûr.
J'allais partir en cacahuète méchant.
Okay.
Et du coup, waouh, je peux remonter à la surface, je peux boucler mes études. Mais le truc, c'est que je n'ai pas continué le travail psychothérapeutique. Parce que à l'époque, je pense qu'on n'avait pas le réflexe de se dire ah, je changeais de ville, ah, on va continuer en visio.
Non, ça se faisait pas du tout. Hein.
Je suis quand même démerdouillé avec mes angoisses. Tu vois, anxio, ils étaient là 2-3 mois, puis ensuite, je l'avais roulé moi-même. Et. J'ai encore passé 5 ans plus ou moins à tricoter de mon côté, à avoir des angoisses pour rien.
Et tu étais toujours avec Émilie à ce moment-là ?
Émilie, on a fait 9 mois. Et du coup, 9 mois, une relation compliquée.
Bah,
en plus,
bien
j'étais
sûr.
À distance, j'étais à Toulouse, elle était en Bretagne.
C'était pas le meilleur moment
c'était
pour
toi.
C'était
pas top, je flippais sans arrêt, je me faisais des scénarios loin d'elle. Quand on se voyait, j'avais toujours 46% de mon cerveau qui est en train de ruminer des scénarios pas possibles de l'avoir contaminé alors qu'on était à Saint-Malo sur les remparts au coucher de soleil. En fait, je me suis pourri la life pendant très longtemps.
Ok, donc là, t'es parti de Bretagne.
Ouais, et puis ben, je suis allé bosser à Paris, 2 ans, terre d'opportunité, et ça a délivré. C'est-à-dire qu'évidemment, quand t'es le petit mythe du provincial, il veut que savoir ce que c'est que la parisienne. Quand, tu vois.
C'est quoi la parisienne?
Attention, alerte au cliché, bouchez-vous les oreilles. Non, mais la parisienne, elle est quand même très assurée.
Ok.
Elle est très assurée, elle est très en maîtrise de ses désirs, de sa sexualité. Elle mène sa barque, quoi. Et il faut la décrocher, quoi.
Elle est snob ?
Ouais. Mais ça reste un être humain, suivi des épisodes précédents. Donc du coup, il y a moyen de la
c'est
toucher.
C'est pas impossible.
Il y a moyen de la toucher mentalement et qui peut peut-être permettre des choses derrière. Donc, Paris, belle expérience à nouveau.
Ok, tu rencontres des nanas cool, tu passes des bons moments.
Ouais.
Ok, ok.
Ouais, ouais. Ça va de mieux en mieux. Mais il y a toujours, tu vois, il y aurait vraiment toute ma vie, pratiquement jusqu'à maintenant, ou jusqu'à il y a quoi, 2-3 ans, ça m'a vraiment poursuivi pendant une grosse dizaine d'années.
Ces angoisses
de MST. Oui.
Alors, t'as jamais rien chopé ?
Non,
c'est ça qui
je suis l'homme le plus testé que tu connaisses. Tous les 3 mois, c'était test, comme si j'étais un travers du sexe. Quoi. Je me faisais tester sans arrêt quand j'étais à Paris. Je demandais des tests à ma dermato. Du coup, avant d'aller bosser, j'allais faire un petit test, et après je flippais. Là. Et ça, d'ailleurs, ouais, il y a eu aussi ce revirement dans d'autres domaines de ma vie, tu vois. Tu vois, genre la conduite en bagnole, tu vois, où tu te dis, allez, les accidents, ça arrive qu'aux autres. Puis à ce coup, tu te dis, ah, mais en fait, ça peut arriver à moi aussi.
Bien sûr.
Fait, vraiment, c'est un revirement que j'ai eu beaucoup de mal à gérer. Tu vois, j'ai eu une enfance très protégée,
c'est
très
vraiment un on-off, quoi.
Ouais, j'ai eu une enfance très protégée, très confortable. Et j'ai l'impression que quand je suis arrivé dans la vraie vie avec les vraies problématiques existentielles. Là, tu fais le moins le malin, quoi.
Paris, très cool. Et ensuite ?
Bah, ensuite, rencontre d'une petite Suissesse qui s'appelle Valérie. Et là, crush, quoi.
Big crush.
Ouais, joli crush quand même. Ouais, puis un truc. Ouais, je sais pas. Je veux pas faire du poésie à deux francs, mais il y a un côté, je sais pas, deux âmes fragiles qui
il
se retrouvent.
Il dit deux francs parce qu'il vit en Suisse. Hein.
Ouais.
Pas parce que c'est un boomer.
Les deux. J'assume.
Ah non, en 83, t'es pas un boomer.
Ouais, mais maintenant on généralise un peu l'étiquette pour tous ceux qui sont un peu has-been.
Faut être précis quand même.
Non,
boomer,
alors moi je suis quoi
t'es d'un millennials.
Millennials.
Bah bien sûr. L'année 80.
Ok, merci.
Je t'en prie.
Valérie, ouais, donc je la rencontre par la photo. On avait cette passion en commun. Elle est professionnalisée un petit peu, photographe de mariage. Puis moi, je faisais beaucoup de portraits de femmes déjà. Relation à l'image, on est toujours là. Et on se rencontre en Suisse à un meet-up de photographes et ça fait des étincelles. Puis ouais, et du coup ça l'a fait quoi. Et vraiment, gros coup de cœur.
C'est une histoire ça. Hein.
C'est une histoire, ça, on a fait 5 ans ensemble.
Ouais, ça se sent.
Avec des up and down, mais quand même 5 ans. On est restés très proches plusieurs années après.
Vous avez vécu ensemble ?
Ouais.
Ouais.
Et donc ouais, alors Valérie, première histoire sérieuse de ma vie vraiment.
Ouais.
Et je lui dois beaucoup.
Votre sexualité était épanouie ?
Ouais.
Ouais.
Ouais. Ah oui, c'est clair, c'était bien.
Ouais.
C'était bien.
Pendant 5 ans, c'était bien.
Même après, d'ailleurs. Je me souviens encore une fois, après la rupture. C'était pas les meilleurs coups,
les
mais c'était très bons coups.
Les dernières.
Après la rupture, quand tu ouais. refais l'amour après la rupture.
Il faut toujours une dernière pour que
c'est
tu...
C'est vrai ? Moi, je savais pas.
Moi, je pense qu'il faut toujours...
Après la rupture.
Il en faut toujours une. Sinon, t'as pas fermé l'histoire.
C'est vrai. Et puis,
Donc, vous rompez.
Est-ce que je peux quand même préciser qu'il y a une première aussi ?
Ah, Valérie. Avec Valérie ?
Avec Valérie, première pénétration anale.
Ah bah bien sûr, on l'avait pas faite celle-là.
Ah ouais. Elle me l'a fait à la sauvette. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe là ?
Mais c'est ce que tu me disais dans ce que tu me racontais par écrit, c'est qu'effectivement, ça s'est fait dans un rapport très agréable, mais vous n'en aviez pas parlé avant.
Non. Et donc paf, quoi, je me retrouve en terre inconnue. Et là, j'étais un peu fâché en fait. Parce qu'en fait, le côté non consenti a un peu pris le dessus sur le côté sensoriel que ça aurait pu avoir.
Tu reçois et que tu pénètres, etc. Enfin, il faut quand même un petit peu l'intellectualiser, moi,
ouais.
je pense, avant. Quand
ouais.
Même.
Ouais. Et donc, je trouvais ça. Alors, ouais, c'était une bonne soirée.
Oui,
on était un peu bourrés.
C'était une partenaire
c'était
de confiance.
Ouais, on se connaissait déjà depuis 2 ans. Voilà. Mais ouais, elle me l'a mise là. Et puis là, j'étais là. Et du coup, j'étais pas très content.
Ouais, elle a compris ?
Oui, on a reparlé après, et puis voilà. Mais ouais, super bon sexe, première claque, première...
Fessée.
Ouais, elle est fessée. Enfin, c'est une belle relation okay. complète, une fille avec beaucoup de forme, que j'adorais, vraiment.
Là, t'étais autour de la trentaine, t'es dans ta trentaine déjà ?
Ouais,
ouais.
Gentiment, ouais. Ouais, trentaine, j'ai la trentaine, ouais, on se sépare, j'ai 29 ans.
Oui, c'est ça. Et donc après, comment ça se passe cette trentaine ? Parce qu'aujourd'hui, t'en as 40. Donc, t'as 10 ans qui se passent comment ?
Ben, sur des modèles à peu près similaires de relations, de gros coups de cœur.
D'accord, que tu rencontres comment ?
Soit à une soirée d'anniversaire.
Ok. Donc, genre, dans nos cercles privés
ouais,
de potes, quoi.
Soit au travail.
Ok. Donc, plutôt dans. Donc là, tu t'es lâché un peu tout ce qui était. Enfin, avant c'était caramel, mais tu vas pas sur les applis du coup ?
Un petit peu,
mais, pas...
mais finalement, en fait, les deux grosses relations sérieuses que j'ai eues pendant ma trentaine, 5 ans et 4 ans, c'était dans le real life, quoi. Puis, avec un peu de culot, je me suis lancé, quoi, et un peu d'aide, des fois. Voilà, je sais que Lucie, que j'ai connue quand j'avais 29 ans, en fait, et en fait, un schéma de up and down qui commence un peu à se marquer, et toujours pour les mêmes raisons, en fait.
D'accord, qui sont ?
Un sentiment d'emprisonnement, ouais.
Dans la relation de couple ?
Ouais.
Tu te sens enfermé.
Ouais, je dis, j'ai beau adorer la personne, elle est smart, elle est belle et intelligente, on a du super sexe, tout est là, tu vois. Mais d'un autre côté, il y a un côté où je me sens à sa merci, tu vois. Je suis
d'accord.
Enfermé dans la relation avec la personne.
Tu te sens.
Elle a beau être super, je suis quand même à sa merci. Tu
d'accord,
vois. C'est le ressenti.
C'est que ça te coupe de l'extérieur.
Oui.
Ok.
C'est-à-dire que, en fait, je suis. Et à nouveau, je les blâme pas, hein, tout se passe dans ma tête majoritairement, donc. Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit.
Bien sûr.
Donc, dans mon ressenti, c'était un enfermement. C'était. Je remets mes testicules en passant la porte et on me les redonne quand je reviens le soir.
Ah ouais, car c'est aussi fort que ça
ouais.
pour toi. Okay.
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le côté dans la vraie vie, tu vois, que ce soit au job, à la boulangerie ou ailleurs, j'étais asexué. J'étais démuni de mon pouvoir d'initiative,
parce que
de séduction.
Le mec de...
Ouais.
Ok.
J'étais.
Parce que t'étais en couple.
J'étais, ouais, j'étais annexé, tu vois, et du coup, j'étais. Et tu vois, on parle même pas de niquer au bureau, tu vois. On parle de cette énergie primitive, freudienne, je sais pas quoi, qui te permet d'aller dans le monde, tu vois. Tu vas dans le monde, t'as confiance en toi, c'est parce que tu es tout entier, et y compris ton être sexuel est avec toi quand tu es dans la vie.
Et
tu
t'as
vois.
L'impression que cet être sexuel, tu le laisses.
Complètement.
À ta compagne
ouais.
à ce moment-là. Alors que, on est d'accord, je paraphrase, mais juste qu'on comprenne bien, elles t'ont rien demandé, elles sont
ah
pas
non.
du tout. C'est pas des nanas qui sont dans une domination absolue, elles sont très cool, comme
non.
tu dis, tout ça. C'est vraiment ton ressenti.
C'est mon ressenti.
D'accord.
C'est juste que
c'est très personnel.
Bon, après, on est dans une certaine époque, le paysage est en train de changer.
Évidemment.
Beaucoup, pas mal
changé
depuis 10 ans. Mais on se posait pas trop la question, c'était on est ensemble, c'est monogamie, voilà.
C'était même pas une question. C'était même pas une question.
C'était de facto.
Bien sûr.
Et du coup, moi, je trouvais pas ma place là-dedans de façon durable. Il y avait une gêne qui
d'accord.
s'installait tôt ou tard.
Et t'arrivais à leur verbaliser ça ?
Je faisais mieux que ça, je les quittais.
C'est bien verbalisé, ça, dis donc.
Je les quittais. Enfin, on parlait, et il y avait voilà, plus ou moins. Des fois, j'arrivais pas à en parler parce qu'il y avait la honte.
Bah oui.
Parce que tu dis, ouais, mais c'est moi qui ai un problème.
Bah oui, parce qu'en plus, si ça se passe bien, si tout est ok, si la
je
nana.
Je me disais, c'est moi qui ai un problème.
Ouais, ouais,
du coup, j'étais honteux.
Je comprends.
De développer des désirs, de continuer d'avoir des aventures.
De créer le
tout
problème,
en
quoi. Ouais, ouais, ouais.
Donc, je n'arrivais pas à dormir avec.
Tu l'es trompé ?
Non.
D'accord.
Je les quittais.
Ok.
Je les quittais, je vivais ce que j'avais à vivre. Et je revenais vers elle, quoi. En me disant,
ouais,
je t'aime,
mais
je
c'est
peux pas
viable
vivre sans toi.
Ouais, mais... Bien sûr, je comprends ce que tu dis, mais c'est vrai que ça doit pas être évident en tant que femme, parce que déjà, c'est compliqué à comprendre. Enfin, tu vois,
non, mais c'est après, non, mais c'était...
Et du coup, parce qu'elles, malheureusement, elles étaient tributaires de ton choix de les quitter. Et donc, du coup, évidemment qu'elles t'aimaient encore. Donc, tu pars quelques semaines, quelques mois, tu reviens. Bien sûr que tu les reséduis, etc. Mais ça doit pas être évident.
Ah non,
tu
mais
vois,
c'est clair,
c'est ça, c'est pour ça.
Pas évident pour elle, pas évident pour moi non plus.
Ce que je voulais te dire, c'est que
parce
pour les
que
deux.
Moi, en fait, moi, je traînais, du coup,
et puis une culpabilité.
Cette culpabilité.
Bah, bien sûr, j'imagine.
Je disais, ok, je t'ai fait du mal. Et donc, en fait, du coup, ça n'arrangeait rien.
Et puis, tu comprenais pas, j'imagine, parce que je la désire, mais en même temps, je me sens enfermée, mais en même temps, j'aime être avec toi, mais en même temps, j'aime bien être avec elle. Enfin, ça doit être un peu.
Ah non, mais c'était un okay. espèce de puzzle irrésoluble, et j'ai jusqu'à très peu de temps.
D'accord.
Pensé que c'était moi le problème.
Et donc, justement, qu'est-ce qui va faire que tu, à un moment donné, tu arrives à ce pourquoi aussi il y a eu un grand changement dans ta vie. Comment ça va s'opérer, ça ?
Ben, ça va s'opérer avec une ultime rupture de ce mode de ce mode monogame, d'histoire, on va dire, vraiment sérieuse, durable. Donc, après 4 ans, je quitte Aifer, qui était une femme incroyable.
C'est très joli, ce prénom, Aifer. Je ne connaissais pas du tout.
C'est un Turc.
C'est Turc ? Ah, okay.
C'est Turc. Aifer, c'est la première... fille qui a cessé de poser pour moi sur des photos de charme.
Oui, c'est ce que tu me disais, t'avais fait des photos avec elle de charme, d'érotisme, etc.
Et j'avais jamais fait ça avant. Enfin,
ouais.
Du bout des doigts, les ex, elles voulaient faire ça, mais pour me faire plaisir, tu vois.
Ouais.
AFR, elle était game. Et elle prenait du plaisir. Du coup, on a fait une 5-6 sessions de photos, du glamour, du boudoir, des trucs des fois franchement porn.
Alors, le boudoir, je comprends bien, c'est du nu, mais érotique.
En fait, j'ai l'impression que la philosophie, je ne suis pas un expert, mais j'ai l'impression que la philosophie du boudoir, c'est d'amener des femmes à se voir comme elles ne se sont jamais vues, en
d'accord.
fait, et de développer une confiance
à
en elles.
À sublimer leur corps,
voilà,
etc.
Voilà,
okay.
Ah ouais, en fait...
Érotique, on passe un cap.
Ouais.
Où là, effectivement, on joue plus avec les attributs sensuels, ouais. etc. Et bon, porn, après, on a compris...
On est sur l'explicite, voilà, on a une chatte qui s'ouvre, mais...
J'aime tellement comment il part.
Ce qui n'exclut pas de faire du beau.
Merci pour ces précisions. Donc, Aifer, ça, c'est une très belle histoire.
Mais qui se termine, et encore pour les mêmes raisons.
Pour les mêmes raisons.
Part. Voilà. Ouais. Enfermement, voilà. Plus le fait que j'ai fait un burn-out, donc ça n'a pas dû aider dans la relation.
Donc là, ça ne va pas très bien à ce moment-là. On est quoi début...
On est il y a un an et demi. Et donc, on
c'est
est
ça,
là
début
où...
2020. Enfin, dans les années 2020 passées.
Ouais. Ouais.
Ok, et donc là ça va pas trop.
Non, mais du coup c'est un peu le reset quoi.
Est-ce que tu commences un peu à justement t'éduquer, hein, je me permets parce que tu as utilisé les mots de déconstruction plusieurs fois, justement sur ces nouveaux courants de pensée, est-ce que tu commences à consommer notamment des podcasts, mais autres, pas encore.
Non, ça c'est vachement récent.
D'accord.
Ouais, okay. Ça je dirais c'est cet été. Si, au niveau éducation... Là, on est sur du... ouais, enfin, je veux dire, Aifer m'a dit... À l'époque, elle m'avait dit déjà... Elle m'avait dit, pour sortir avec moi, tu dois lire Le Deuxième Sexe.
De Simone de Beauvoir.
J'ai lu le premier tome. Entrer en relation avec le premier tome.
C'est pas évident à lire.
Ouais, c'est pas évident. C'est très...
ouais, c'est pas
très
évident.
Très cossu, ouais.
Ouais, ouais.
Mais voilà, mais c'était hyper intéressant.
D'accord,
d'un seul coup, tu te dis, ok, ta perspective, elle s'agrandit.
Bien sûr. Donc là, t'es vraiment au fond du seau. T'as rompu avec Aifer, tu
fond
sais.
Il n'y a plus rien. Je suis dans un appart qui ne me plaît pas, une ville qui ne me plaît pas, le job est horrible. Voilà. La chance avec ça, en étant entouré, une bonne thérapeute, Isabelle, merci.
Des bons amis.
Ouais, et des bons parents.
Ça, c'est très important.
Franchement. Et du coup, je te fonds du bac, ils sont venus me faire
en plus, là, c'est ton année où tu vas avoir 40 ans, quoi. Donc, t'es à l'aune de tes 40 ans à ce moment-là.
Ouais, c'était un an avant que j'ai 40 ans.
Ouais, donc du coup...
À un an moins 40 ans, je suis au fond du bac.
Tu penses qu'un peu la middle crisis qui se greffe à tout ça ?
Peut-être dans le meilleur sens de crisis, tu vois. C'est-à-dire que on m'avait appris, ma première psy m'avait dit crise en chinois. Tu sais ce que ça veut dire, littéralement, le signe crise ?
Pas du tout.
Opportunité de changement.
Ah, j'adore l'idée.
C'est la traduction chinoise.
C'est vrai que j'ai un bon ami qui m'a offert un livre justement sur la fameuse crise du milieu de vie et qui a été écrit par un penseur chinois. Et en fait, il s'est traduit. Mais effectivement, il commence en disant ça dans la préface. Et que c'est un moment de... T'as tout à fait raison. Ah, je raccorde maintenant. Okay.
Voilà, donc moi, ça a été plutôt une transformation qu'une crise. C'est pas la crise dans le sens... ça fait mal, ça gratte, je vais acheter une moto. Plutôt, ok, maintenant tout le puzzle est par terre, on va le reconstruire tranquillement, pièce
génial,
par pièce.
Génial.
Et on va faire du sur mesure cette fois-ci.
Et comme t'as des bonnes fondations, ça c'est
vertueux.
Ça s'est fait
tout doucement. Et j'ai été accompagné, psychiatre, psychothérapeute.
T'as repris les médicaments à ce moment-là ?
Et je suis encore sous antidépresseur maintenant. Okay. On prévoit de baisser au printemps, parce qu'il ne faut pas arrêter en hiver.
Oui.
Les jours sont courts.
Tout ce qui est vitamine D et tout ça.
Ouais.
Ok, très bien. Donc,
reconstruction progressive, okay. Étape par étape.
Donc déjà, tu redéfinis ton projet professionnel, tout ça, bien sûr. Et tu réfléchis à, justement, j'imagine, tes formats de relations.
Ouais, ça commence un peu à travailler, mais vraiment timidement, tu vois. C'est-à-dire que, à nouveau, tu vois, j'étais pas exposé à des... à du matériau, du genre podcast, du genre livre clé. Parce que autant je suis vraiment un enfant d'internet, donc voilà, mais j'étais jamais tombé sur le compte Insta ou le blog qui machin qui m'aurait accroché. Et du coup c'était toujours dans un coin de ma tête, mais ça s'est jamais vraiment développé et je me sentais toujours très seul.
Ouais.
Mais il y avait un questionnement qui affleurait. Et puis avec l'âge, on s'affirme, on se dit, mais en fait, voilà, je suis comme ça, quoi. Et on ne peut plus trop se compromettre, quoi. Donc il y a eu une dernière très, 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 très belle tentative de relation monogame cette année.
Ouais.
Une fille qui s'appelle Camille, une fille incroyable. Où on continue aussi dans les pratiques à aller plus loin, tu vois. On commence à aller sur du BDSM.
D'accord.
On commence à jouer
avec... De ton fait ?
Et alors, ça qui est fou, c'est qu'en fait... Ni elle ni moi n'avions d'expérience sur des choses comme du choking ou des choses comme ça.
Choking, c'est le fait de presser la gorge pour s'étouffer un petit peu.
Mm-hmm. Ou alors pousser le pénis très très loin. Ou, voilà,
c'est tout ce qui est étouffement, quoi, globalement.
Ouais, ou aussi commencer à pincer les tétons.
Ouais.
Voilà, commencer à jouer avec la douleur. Et là, le truc, c'est que ni elle ni moi, on n'avait jamais fait ça avant.
D'accord. Mais
y est arrivé organiquement.
D'accord.
C'est un truc de ouf.
Entre vous, naturellement.
Voilà, c'est arrivé comme ça. Et waouh, et à nouveau, il y a un avant et un après. Tu vois, quand tu commences à être sur ce territoire-là,
bien sûr.
Ça te change profondément. Après, tu as une notion de consentement, de malade.
Et puis de limite, de
ouais,
risque. De, et... Ouais, bien sûr. Puis voilà. Tu vois le corps différemment.
Ah oui, c'est vraiment une grande ouverture de faire ça. Et je suis très heureux d'avoir passé le cap avec elle, parce qu'il y avait beaucoup d'amour.
Donc là, la relation, pareil, tu tentes.
Là, vraiment, c'était la totale. C'est-à-dire que non seulement. Je tentais, j'étais fou amoureux d'elle, mais vraiment au taquet. Je tentais le monogame, je tentais... c'est aussi la première personne de toute ma vie, à l'aube de mes 40 ans, après quand même X histoires, Camille, c'est la première personne avec qui je voulais faire des enfants.
J'allais te poser la question à un moment donné si t'as eu un désir d'enfant.
Ça n'était jamais arrivé vraiment avant.
Ouais.
Ça a été discuté un peu, mais jamais vraiment voulu, avec Camille. C'est, puis c'est un truc, c'est pas intellectuel. T'as, à l'intérieur de toi, il y a tous les signaux qui passent au vert.
Ouais.
Tout, c'est bon, c'est vert, on y va.
Après, souvent, c'est... Fin...
Voilà, ce qui fait que non seulement au niveau sexuel, mais aussi au niveau tout, il y avait un côté waouh quoi.
Mais.
Et elle me fait me sentir bien, enfin vraiment voilà. Mais Camille avait déjà et a toujours donc deux petites filles charmantes et elle ne veut plus passer par la maternité.
Ouais.
C'est fini.
Okay.
C'est rideau. Idem, Camille, je me serais bien marié avec elle parce que les feux verts étaient partout.
Okay.
J'avais les feux verts intérieurs et je suis un grand du doute. Je doute énormément, j'ai toujours douté énormément. Mais avec Camille. C'était feu vert, feu vert.
Et juste
feu
le
vert.
Rôle de beau-père ne t'aurait pas satisfait, tu voulais un enfant.
Ouais. En tout cas, je voulais que ce soit possible. Je voulais pas le faire maintenant.
Oui, bien sûr.
Mais.
Que ce soit une éventualité.
Mais non, éventualité zéro, mariage pareil zéro. Donc à un moment donné, j'ai dû ravaler ça, j'ai pleuré beaucoup. Je me souviens très bien d'un dimanche après-midi où je me suis passé à fond dans mon bureau Que feras-tu de ta vie chanté par Sarah Lankman. Et alors là, boum. Je me suis foutu par terre, écroulé à même le sol, chaud de larmes, espèce de deuil comme ça. Tu vois.
Et tu savais que c'était terminé là.
Et je savais que ça allait se terminer. C'était pas terminé, mais je savais qu'on n'allait pas se remettre de ça.
Bah, c'est vrai que quand les projets de vie sont pas compatibles.
Je savais qu'on n'allait pas se remettre
quoi.
De ça.
Ouais.
On avait parlé.
Donc là, ça s'arrête.
Ça s'arrête finalement et ça s'arrête. Ouais, là, on avait vraiment beaucoup parlé, mais à un moment donné, il y a X événements. Justement, concert de Sarah Lankman en Suisse, dans un endroit magnifique. Et voilà, il y a des femmes, quoi. Il y a des très belles femmes qui assistent à ce concert, intimistes, dans un très beau lieu boisé, au bord du lac, un peu idéaliste du Gatsby, là. Il y a des femmes, et je discute avec des femmes. Et c'est super agréable, tu vois. La liberté, discuter avec des femmes, elles sont intéressantes, elles viennent de X choses. Et en fait, à un moment donné, il y a un déclic, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais dans une relation dans laquelle t'es malheureux, même si à nouveau Camille est géniale,
oui,
au niveau du contexte, t'es malheureux,
ouais.
Alors que il y a une abondance de nanas sublimes et intéressantes dans tous les concerts de jazz.
Mmh.
Enfin, en gros, tu vois. Et d'un coup, il y a un déclic, je me dis, en fait, ouais, ok. Et ce week-end-là, j'avais un week-end d'écriture avec un très bon ami à moi qui s'appelle Léo, très important aussi dans les dernières années au niveau professionnel et personnel. Et voilà, il m'a apporté beaucoup, Léo. Et on se retrouve avec Léo, on est à Milan pour une retraite d'écriture les deux, on se loue un appart. Il fait super chaud, canicule. Et voilà, et la coupe est pleine, je romps avec Camille par voie téléphonique, voilà. Ça revenait pas de nulle part, mais en tout cas l'acte de rupture
est
venu par voie téléphonique.
Okay. Ouais.
Et en fait, on s'est même pas séparés à cause d'histoire d'enfant et de mariage. C'était parce que Camille était pas sûre de ses sentiments pour moi. Elle m'emmenait dans des up and down, et elle y pouvait rien. Hein. Mais en gros, je lui disais, écoute, soit t'attaques une thérapie pour travailler sur ce qui se cache là-dessous, soit on arrête. Et du coup, paf, je suis en Italie, je suis à Milan, je viens de me séparer avec Camille.
Ouais.
Grosse énergie, tu vois, l'énergie un peu de la supernova, tu
bien
sais, l'étoile qui explose, ça te propulse, tu vois. Et Léo est là, et puis ça faisait déjà quelques années qu'on discutait sexualité, déconstruction, relations ouvertes. Et je l'écoutais, j'avais envie d'écouter, ça faisait un an que j'écoutais ses témoignages, ses histoires, ses difficultés, mais aussi ses joies dans ses nouveaux modes de relations. Maintenant, quasiment 40 ans, il est temps de vivre la life, quoi. Et Léo me dit, tiens, il y a une app vachement cool, et tu devrais y aller, parce qu'il y a des personnes justement qui...
sont un peu dans cette ambiance, quoi.
Voilà. On n'est pas sur une app totalement tout venant, où on a une app qui te pose des questions assez précises quand tu rentres, qui implique que tu as fait un peu de travail sur toi pour savoir qui tu es et qu'est-ce que tu veux.
Ah, bien sûr.
Et du coup, tu tombes sur des gens aussi un peu plus déterminés, un peu plus sûrs d'eux.
Réfléchis dans leur volonté de...
Et paf, je tombe sur Giovanna, 56 ans, 16 ans de plus que moi, parisienne, grâce à qui je suis là ce soir.
Merci Giovanna.
Merci Giovanna. Et voilà. Et
donc vous matchez.
On match, on a un date à Genève, du feu de Dieu.
Alors attends, parce qu'elle, elle est milanaise.
Elle est milanaise d'origine, elle bosse à Paris.
Ok.
Et.
Vous datez à Genève.
On date à Genève parce qu'elle va voir sa maman à Thonon. Voilà, la vraie vie, quoi.
Ok. Voilà,
tout est en translation.
Ce gars est partout.
La vraie vie, voilà.
Ok, donc vous datez et là.
On date à Genève, ça fait des étincelles de malade.
Elle a 16 ans de plus que toi.
Elle a 16 ans de plus que moi, je les sens pas.
Ok.
Et voilà, on prend un café, on discute, ça le fait bien. On se pose un peu, chambre d'hôtel climatisée, toujours la canicule. Et puis là, direct la douche à poil.
Et go.
Elle m'enlève mes fringues. Et go, quoi. Et ça le fait, mais du feu de Dieu. Feu de Dieu. Et puis avec cette synthèse, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, d'un seul coup, tu dis, il y a 20 ans de pratique sexuelle, et à nouveau des nouveaux feelings qui arrivent de quelqu'un d'autre. Du coup, il y a une espèce de maturité.
Ouais.
Qui permet d'arriver relativement vite sur un premier date avec des personnes avec qui il y a un bon fit, à des belles expériences, tu vois.
Bien
déjà
sûr.
Très complètes, tu vois.
Mmh.
Et du coup, un moment très complet, on était timé parce qu'elle devait prendre son TER pour Thonon à 17h30.
Ouais,
on l'a
mal.
Fait, super chambre d'hôtel, voilà. On s'est rappelé, elle m'a dit, écoute, j'ai envie de vivre un truc avec toi, j'ai envie qu'on attaque ensemble, qu'on fasse une
elle
histoire.
Elle était totalement célibataire, elle, à ce moment-là, ouais.
Ouais. Elle me dit, écoute Stéphane, j'habite à Paris, toi t'es à Lausanne, je pense que ce serait plus raisonnable qu'on parte en non-monogamie.
Directement.
Ouais, c'est elle qui m'a proposé.
Okay.
C'est elle qui me fait le plateau d'argent. Donc le truc inespéré pour moi, qui toute ma vie questionnait les modes de relation et avait envie d'explorer autre chose.
Tu penses que t'aurais pu lui verbaliser, toi ?
Non. Je pense que ça m'aurait pris au moins 10 ans de plus.
Et vous n'en avez pas parlé ?
Non.
Et Giovanna, vraiment, elle te sort ça du chapeau.
Giovanna n'avait jamais non plus pratiqué la non-monogamie. Elle avait une très 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 large expérience sexuelle dans les pratiques.
Oui.
Mais pas au niveau, des nouveaux modes de relation.
Ok.
Je dis oui, tu as raison, c'est sûrement plus
attends,
raisonnable.
Attends, je vais réfléchir.
Non, je dis c'est sûrement plus raisonnable. Et parce qu'on me servait sur un plateau d'argent.
Exactement ce que tu attends depuis.
L'expérimentation que je rêvais de vivre depuis 20
bien
ans.
Bien sûr, bien sûr.
Et que, je n'osais pas demander pour tous les blocages moraux, les auto-jugements.
Bien sûr. L'héritage judéo-chrétien, tout ça.
Voilà, donc en fait, et elle m'a permis de franchir ce pas et je lui resterai à nouveau. Hyper reconnaissante.
Ça fait combien de temps ?
C'était Alors, l'histoire s'accélère, tu vois, plus t'arrives vers la, je vais pas dire la fin, mais en tout cas l'état actuel, c'était au mois de juillet cette année.
D'accord, donc là c'était il y a quelques mois, on enregistre décembre, donc vous avez commencé à rentrer dans cette relation non monogame.
Et direct, et ça je pense c'est un peu l'erreur de débutant, on n'est pas passé par une construction de couple au préalable.
D'accord, ok.
C'est-à-dire qu'on a directement ouvert. Moi, étant qui j'étais, il y a un peu un écho aussi avec la phase, tu sais, adolescence où tu vois les autres se rouler des pelles mais tu n'y es pas.
Ouais.
Du coup, j'ai vécu un de ces étés. Avec un bilan carbone tout à fait acceptable parce que j'ai fait toute l'Europe en train. J'ai fait l'amour à la moitié de l'Europe.
On s'entend.
Bien et en sûr. Tout cas, c'était fabuleux. C'était un moment de ma vie d'abondance où enfin, la sensualité, le plaisir, la séduction, le désir où tout pouvait couler, circuler.
Sans culpabilité l'écoute de tes désirs. Ah.
Sur le principe. Sur le principe, c'était ça. Sur le papier, tu vois. Après, dans la vraie vie, ça s'est passé très difficilement avec Giovanna.
Pour elle ?
Ben oui. Il y a ce fameux principe, tu vois, de la compersion.
Ouais.
Où tu es censé te réjouir
de la réussite de l'autre. Ouais.
Voilà, je me planquais derrière ce fameux mot, tu vois, un peu sésame, qui peut être justement une planque, mine de rien, pour une espèce de hold-up, on va dire, affectif. Ah ok, ben, t'es pas contente que je fasse les quatre coins de l'Europe pour baiser ? Ben, c'est ton problème, t'es pas capable de pratiquer la compersion. Tu vois, en gros, je schématisais le truc.
Ouais, je comprends. Parce que, effectivement, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, le fait de pas avoir souder la relation au début. Ouais, je comprends. Ouais.
On s'est planté. C'est fini de façon misérable. Et je suis très gêné par rapport à la fin parce qu'effectivement, il y avait une très grande ambition, cette relation. Très grande ambition, très grande échelle. Énormément de terrain culturel, créatif, en commun. Il y avait plein de trucs à faire. Et c'est parti en cacahuète. Ouais. Et c'est parti de façon vraiment une espèce de déchéance très décevante.
Donc là, vous avez rompu ?
Ouais, on a rompu finalement, et puis pareil, par WhatsApp, quoi. Un truc vraiment mais dégueulasse.
Mais il n'y a pas si longtemps, du coup.
C'était... On a fait 3 mois. C'était, je pense, début octobre. Et voilà, je pense que... Du coup, voilà, j'hésitais à lui envoyer SMS tout à l'heure en me disant « Hey, je vais enregistrer le fameux podcast que tu m'as dit, tu devrais y aller parce que tu as une histoire intéressante. »
Ouais.
Et j'ai même pas
réussi à la contacter. Tu pourras lui envoyer l'épisode.
Ouais, je lui enverrai ça, ouais, je lui enverrai l'épisode.
Coucou, Giovanna.
Ouais, coucou, Giovanna, et merci, et... Ouais. Et j'ai appris de ce qu'on a vécu, voilà.
Tu sais que c'est ce type de relation qui te convient.
Ah ouais.
Là, tu reviendras pas en arrière.
Ah non.
Oh waouh.
Non, j'ai fait péter ton volume mètre là. Ouais.
Et mon oreille.
Non
coup.
Mais tu vois, ça venait du cœur.
Ouais,
ah
ouais.
Non,
tu reviendras pas en arrière.
Et je reviendrai plus en arrière, non.
C'est vraiment ce chemin.
Oui, c'est ce chemin.
Donc tu cherches du coup une future partenaire qui, comme toi, pratique. Alors, est-ce qu'on parle de relation ouverte ? Est-ce qu'on parle de polyamour, Stéphane ? On parle de quoi là ?
Alors effectivement, c'est vrai que là on est dans une espèce de, on a des termes un peu socles, un peu flous quand on démarre.
Ouais.
J'aimais bien INM. Voilà, moi je partais parce que.
Donc INM, ça veut dire.
Ethical non-monogamy, la non-monogamie éthique.
C'est ça.
Et qui était un peu le terme.
C'est aussi l'école nationale de magistrates, sache-le.
Très bien, parfait. Et c'est le terme en fait qu'avait employé mon ami Léo, à qui je dois aussi beaucoup parce que lui il était déjà versé dans le sujet depuis quelques années et il me parlait de ça. Et donc INM. Ça se concrétise, quoi. Maintenant, je sais que ça a un nom. Ça s'appelle non-monogamie. Ah, ok. Si ça a un nom, donc on peut chercher des trucs, on peut chercher des podcasts, on peut chercher
de la
littérature.
Bien sûr, mais ça, t'as raison.
Mais quand t'as pas de nom,
non, mais t'as raison.
Tu sais pas où chercher. Tu sais pas où te nourrir, tu sais pas où trouver les retours d'expérience, les repères.
Tu dis aussi, il y a ce truc de pas être seul dans ce choix-là et de savoir qu'il y a d'autres personnes qui...
Ouais, il y a une notion de communauté qui rentre en jeu.
Exactement.
Et d'un seul coup, tu dis, ok.
Et ça va être vachement nourrissant.
Bah oui, parce que quand tu passes 40 ans à dire que c'est toi le problème,
ouais.
ça change complètement
la
donne.
Ouais,
et tu prends vraiment confiance.
J'entends.
Et donc ça te porte. Et du coup, maintenant, j'ai un peu le vent en poupe. Même si c'est d'autres problèmes. Pas plus simples que la monogamie. Mais perso, c'est des problèmes et c'est des discussions qui m'intéressent.
Et puis, t'es aligné avec ce dont tu as envie profondément.
Et ça décuple mes forces.
Ouais.
Dans le TGV, au wagon-bar.
C'est donc toi le mec qui drague au TGV.
Bien sûr, au security check de l'aéroport, mais... Le monde est une app de dating.
Ah ouais, t'es un dragueur comme ça ?
J'ai toujours voulu l'être et maintenant je le suis.
Ah ouais ?
Maintenant j'ai épousé ma persona.
Et ça fonctionne bien ?
Qu'est-ce que t'appelles fonctionner ?
Mais dans le sens, est-ce que t'as du répondant ? Ou est-ce que tu te fais un peu remballer ou...
Ben, très souvent, tu vois, moi j'arrive pas avec des attentes, tu vois, avec un plan. Moi le but c'est...
Je crois que c'est ça qui fonctionne bien.
Voilà,
souvent,
j'ai aucune attente. Le but c'est de le faire pour moi et d'être dans un check comme de consentement. C'est-à-dire que je dis, est-ce que je peux vous faire un compliment, madame ? Vous avez un look hallucinant. Mais c'est vrai, je le pense, tu vois, ouais. Je le pense vraiment. Et ben franchement...
Allez, un petit ratio.
Non, mais à 90%, j'ai un sourire.
90%?
Ouais.
T'as un sourire.
Bien sûr, et je suis content, et ça fait ma journée.
Ouais, c'est cool.
Et au moins, tu vois, la séduction, le sourire, le désir au sens large, le désir de connecter,
oui,
il a circulé. On l'a pas bloqué.
Bah, c'est notre essence même d'humain, hein.
On est sur une énergie vitale qui circule.
Et c'est ça dont tu as besoin.
Je ne peux plus compromettre là-dessus.
Ok, je comprends.
Après 40 ans sur le frein à main, tu ne peux plus. Ah ouais. Donc, c'est qu'il n'y a rien de mal dès lors que c'est consenti.
Et donc aujourd'hui, on est un peu... Ah bien, ça serait tellement intéressant qu'on réenregistre dans un an, par exemple. Tu vois, pour savoir un peu...
Faisons-le, avec plaisir.
Tourner. Donc là, ça y est, tu sais ce dont tu as envie. Tu as nommé tes besoins. Qu'est-ce que tu attends ?
Je parlais justement de ce terme un peu ombrelle de non-monogamie où il y a plein de façons de le vivre. Énormément, il y a des très belles bandes dessinées d'ailleurs très rigolotes qui introduisent les différents modes de relations, on va dire, alternatives. Moi, j'ai l'impression, venant de là d'où je viens, qu'il y a un mode qui fait la synthèse entre là d'où je viens, qui est quand même le romantisme Walt Disney, il vécu heureux, il y a beaucoup d'enfants ou pas, mais en tout cas, le côté très romantique et très cosy et très sécurisant. D'une relation, on va dire, centrale, et aussi la faculté d'être Indiana Jones et de mettre le chapeau et d'aller aux quatre coins du monde avec des avions. J'ai compris ça il n'y a pas si longtemps, je crois, il y a 2 semaines, j'ai été sur un site qui détaillait un peu les différents modes de relation. Et en fait, le terme, je connaissais déjà, ça s'appelle couple libre ou couple ouvert.
Ok.
Et donc, c'est ce modèle où tu as une relation principale, prioritaire devant toutes les autres, et c'est très net.
C'est ton foyer.
C'est le foyer, c'est la maison émotionnelle, c'est là où tu fais tes plans, là où tu te montres totalement vulnérable, là où tu explores, où tu t'abandonnes. Enfin, voilà,
tu t'investis, c'est là.
Voilà, c'est okay. Là. Quoi. Et il n'y a pas photo. Quoi.
Okay.
Et tu as cette constellation de connexions tout autour qui, dans mon sens, ressemblerait plutôt à des amitiés. Je n'ai jamais vraiment été capable de planter ma bite où que ce soit s'il n'y a pas... une connexion, on va dire, d'une affinité, une intérêt pour l'être humain, et qui est de l'ordre plutôt de l'amitié, de la complicité.
Donc l'amitié genre... sexuelle.
Ouais, genre on passe des bons moments, c'est cool, on boit une bouteille de rouge, on boit un bon film, et puis on fait l'amour, puis c'est cool.
Okay.
Et puis cool, quoi. C'est quoi le problème, quoi. Et il y a un côté dédramatisation du sexe, quoi. Se dire, ok, on va peut-être arrêter. Enfin, je veux dire, c'est
très clair comment tu l'exprimes, et je pense que ça fera écho à pas mal de gens. Moi, c'est quoi ta définition de l'intimité, du coup ?
Eh ben, le premier mot qui me vient, c'est vulnérabilité. Et de vraiment dans cette relation unique et centrale. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont plusieurs centres aussi, tu sais, qui ont plusieurs relations X, enfin, plusieurs relations qu'on dirait principales.
Oui, et là, on est plus sur du polyamour, là. Voilà. Ouais.
Et qui est un truc pour l'instant que j'arrive pas vraiment à intégrer. Je pense, rendez-vous dans 10 ans, hein, mais je pense que pour l'instant, j'arrive pas à diviser mon cœur sur plusieurs personnes.
Oui, et puis l'investissement. Je pense qu'il est, c'est complexe hein, d'investir ouais. autant de relations. Je pense que c'est pas pour tout le monde. Enfin, ouais. Tu vois, c'est ouais. bah, comme le couple libre. Oui, ouais, moi, ouais. J'en parle avec deux très bonnes amies que j'embrasse. Et je sais qu'elles, tu vois, l'exclusivité du couple est une évidence.
Exactement. Et je suis. Et voilà. Et ça, c'est un.
Donc toi, ton intimité, elle est pas là. Ton intimité elle est dans la vulnérabilité.
Ouais, elle est dans la vulnérabilité.
Ouais, c'est intéressant.
Et dans le côté, j'ai les monstres jetons, mais je vais te confier un truc et on va explorer un truc. Ensemble, on est dans le côté je n'ai pas de filet de sûreté dans ouais. le côté si tu me brises le cœur je vais vraiment le sentir quoi. Parce que c'est ça en fait ma partenaire actuelle elle s'appelle Franca qui est berlinoise anthropologue hyper intéressante comme personne justement on est en pleine discussion maintenant, on essaye d'aller vers l'ouverture et c'est un chemin
bien sûr
et bon au moins on a fait des trucs un peu moins faux que la précédente expérience, c'est-à-dire qu'on se construit d'abord.
Et au fur et à mesure, vous irez sur une relation...
Que je souhaiterais être de type relation ouverte. Ouais.
Et sexuellement, de quoi t'as envie ? Qu'est-ce que t'as envie d'explorer aujourd'hui ?
La sodomie ? Non mais blague à part, en fait, c'est des trucs... Enfin, je sais rien, mais en tout cas des...
C'est des pratiques ?
Non mais la sodomie, c'est un peu le gros cliché, évidemment, mais en tout cas, c'est des... Ouais, c'est même pas forcément des pratiques, tu vois. J'ai pas une espèce de checklist, faut faire tout ce qui est possible sur Terre, machin, coup de Kamasutra, j'en sais rien.
Mais BDSM, peut-être ?
Parce que tu dis que t'avais... Même pas, en fait. Tu vois, c'est pas une obsession en soi.
D'accord, c'est une question de personne.
C'est plutôt une question de diversité, de rencontres, d'énergie, qui sont mises sur mon chemin par la vie, si la vie est un concept qui existe. En tout cas... c'est plutôt cette fluidité d'aller vers des couleurs, des énergies,
d'accord.
des parfums.
Si t'as une nana qui t'amène dans un univers auxquels tu n'avais pas forcément pensé, qui pourraient pour certains être catalogués, pardon, un peu trash et tout. Toi, si en tout cas c'est fait en consentement, dans une bonne vibe et tout, t'as pas de blocage, t'y vas.
Ouais, parce que c'est d'abord le feeling avec la personne. Est-ce qu'il y a quelque chose d'authentique? Est-ce qu'il y a un vrai soin de l'autre?
Est-ce que tu pourrais avec un homme?
Non. Ça te fait rire?
J'aime trop ta tête. Non, pas du tout. Ça me fait pas rire, mais j'ai trouvé ça très honnête.
Ouais, ouais. Je me suis posé la question. Évidemment, quand tu déconstruis, tu te dis, ah, mais en fait, voilà. Mais en fait, il n'y a vraiment pas de...
T'as pas d'attirance.
Non. Et à nouveau, pareil, pour revenir au tout début de l'histoire, avec cet émerveillement devant un Michael Jackson qui devient un robot merveilleux et très, très beau, je dis, ok, mais est-ce que non seulement je suis robotophile, mais en même temps, homo, quoi. Et puis avec le côté stigmatisant.
Tu t'es posé la question.
Ouais, avec le côté très stigmatisant. Puis à nouveau, t'as 7, 8 ans, 10 ans, t'es pas armé pour encore moins en parler à tes parents à cette époque-là. Et donc du coup, à nouveau, tu vois, c'était le niveau où je me disais, ok, mais est-ce que t'es déviant, quoi? Je m'étiquetais déviant pour cette question de l'homosexualité. C'est une question que j'escamote pas, tu vois. J'ai aucun souci qu'on me la pose, tu vois, et je deviens pas rouge quand on me la pose. À une époque où tu déconstruis, tu dis, ok, en fait, pourquoi pas? Mais très franchement, j'ai beau me poser la question de tous les angles possibles dans mon cerveau, non.
T'as pas d'attirance, quoi.
Non, ça me fait pas kiffer. Il y a pas de petit truc qui titille, pas de petit truc.
Mais par contre, dans un plan à plusieurs, si t'avais une partenaire qui t'amène dans un plan à plusieurs, c'est un truc qui pourrait se faire.
Alors ça, il y aurait une possibilité. Tu vois, mais pareil, il faut que.
Oui, c'est le
dernier. J'ai envie d'avoir un vraiment bon feeling, je pense, de camaraderie avec s'il y a une nana, par exemple, et un autre mec, on y a trois. Avec l'autre mec, j'ai envie d'avoir une super camaraderie, tu vois. Oui. C'est le terme qui vient. On est complices, on est camarades, tu vois.
C'est pas une relation sensuelle entre vous, c'est plus au profit de cette jeune femme.
Ouais, c'est plus le côté, c'est plutôt comme ça que je le vois. Et on verra ce que la vie met. Mais il n'y a pas d'urgence, tu vois. Voilà, j'aime les femmes. Je sais pas si c'est un problème, je sais pas si c'est un petit peu ennuyeux maintenant, de dire ça en 2023.
Non,
d'être hétéro, 40 ans, blanc, classe moyenne, bonne santé.
C'est
catastrophique. En fait, voilà, je suis monsieur privilège. Et on pourra ouvrir au cours des dossiers là-dessus, mais tu vois, pris conscience aussi par plusieurs expériences, notamment cette année, de vraiment cet empilement de privilèges.
Ouais.
Et des fois, c'est pas forcément. Je vais pas dire que c'est facile à vivre, machin. Enfin, je vais pas me plaindre d'avoir ce privilège. Mais on se dit, mais ok, c'est quoi ma carte à jouer en fait maintenant? Est-ce que je suis has-been? Est-ce que j'ai quelque chose encore à contribuer? Et donc, en fait, c'est un peu les questions pour le futur maintenant. C'est est-ce que dans mon être et ma place sociale de facto, est-ce que je peux contribuer à faire avancer le schmilblick des relations et de la sexualité et du sexe positif et tout ça? J'ai l'intention de le faire, mais tu vois, c'est pas. J'ai l'impression que c'est quasiment des voix qu'on n'entend pas énormément, j'ai l'impression. En même temps, il faut peut-être que je creuse les domaines des podcasts et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a maintenant une espèce peut-être de biais. Peut-être de réaction en fait, où on est vachement sur l'arc-en-ciel et toutes ces, on va dire, ces couleurs qui étaient négligées, méprisées, qui le sont encore beaucoup, et c'est dramatique.
Et invisibilisées, ouais, bien sûr.
Voilà. Et j'ai l'impression, mais ok, mais qu'en est-il de la couleur qui est aussi une des couleurs, la couleur hétéro, la couleur cis? Est-ce que c'est aussi une couleur? Est-ce que c'est aussi une couleur qui est jolie? Est-ce que c'est une couleur qui est poétique, qui est créative, qui a quelque chose à dire? Voilà. Tu vois, c'est un peu ce côté, et j'aurais envie de jouer cette carte-là et de contribuer. Le mot qui me reste maintenant, c'est contribuer.
Que Stéphane, tu pourrais conclure cet épisode et peut-être adresser aux auditeurs et auditrices.
Écoute, déjà, Anne-Laure, je te remercie infiniment d'être une intervieweuse de qualité, une intervieweuse attentive.
C'est très gentil, merci.
Et chaleureuse. Franchement, tu m'avais proposé de le faire à distance.
Ouais, c'est vrai.
Et j'avais insisté pour le faire en présentiel.
Et t'as bien fait.
Parce que c'est de l'intimité. On a besoin d'un être humain réel en face pour aller dans ces endroits-là qui sont quand même très fragiles quelque part.
Malgré ces microbes.
Ouais. Et donc, merci pour ça. Merci de créer ce cadre, safe pour les garçons qui en ont besoin. Je pense qu'on a beaucoup besoin. Donc, en fait... Moi, ma conclusion, ce serait, c'est une invitation. C'est une invitation à chacun d'oser faire son chemin, en fait. C'est un peu bateau, ces termes. Les thèmes qui sortent, finalement, c'est toujours un peu bateau. Mais c'est un peu ce côté, s'il y a des choses qui grattent, c'est un signal, franchement. S'il y a des choses qui foirent répétitivement, c'est peut-être un signal. L'ignorez pas, quoi. Ce serait dommage, parce que la vie est tellement belle quand on est aligné. Je dis pas que c'est simple. Hein. Je dis pas qu'avec ma compagne maintenant, c'est facile.
Ton parcours le montre. Il y a eu des moments... très difficile que tu as raconté avec pudeur, mais bien sûr.
C'est toujours pas simple maintenant dans ma vie. Franchement, j'ai des conversations hyper délicates, des moments des fois vraiment pas faciles à traverser, mais je suis enfin aligné. Je suis la personne que j'ai toujours voulu être et ça décuple mes pouvoirs dans toutes les zones de ma vie. On parle pas que de sexe, là.
Bien sûr.
On parle de job, de capacité à prendre des décisions au job, dans tous les domaines de la vie. On parle de confiance en soi, on parle de rayonnement, de contribution d'énergie qu'on peut faire à tous les autres gens qui nous entourent. Donc ça vaut largement la peine de se dire, ok, mais en fait, de quoi j'ai envie? Et surtout, et même s'il y a des choses qui me titillent, c'est des choses à laquelle je suis malheureux, c'est des choses dans lesquelles il y a un truc qui joue pas, il faut écouter ces signaux. C'est des signaux, c'est des cadeaux, c'est pas des problèmes en fait, c'est pas des défauts, c'est pas des tares. Il faut s'écouter, et donc voilà, écoutez les signaux que vos tripes vous envoient tout le long de votre vie, et ça en vaut vraiment la peine.
Merci Stéphane.
Avec grand plaisir, Anna.
Merci à Stéphane d'avoir fait le déplacement et pour ce riche échange. Comme vous l'aurez compris, Stéphane est bavard, Stéphane a nourri l'échange pendant plus de 2 heures, c'était très intéressant. Pour ma part, je suis désolée si les bruits de tout, parce que j'étais vraiment très très malade le jour de l'enregistrement, j'espère qu'ils ne vous auront pas trop gêné, j'ai fait au maximum pour les nettoyer, les enlever. Merci en tout cas pour votre fidélité, merci pour les étoiles que vous laissez sur Spotify ou Apple Podcast, les avis aussi que vous pouvez laisser, ça fait vraiment déjà très plaisir et surtout ça permet au podcast de gagner en visibilité. 2024 va être une année importante pour le podcast, je vous en dis plus très bientôt, merci en tout cas encore et encore et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.